au verset 15 du chapitre 5 d'Éphésiens. Veillez donc à marcher soigneusement, non pas comme dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne vous montrez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est une voie de débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et apportant la louange de votre cœur au Seigneur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, lui, le sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, de même aussi que les femmes le soient à leur mari en tout. Marie, aimez votre femme, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin qu'il se présente l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'Assemblée, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Toutefois, que chacun de vous aussi, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même. Quant à la femme, qu'elle ait du respect pour son mari.
Donc, ce matin, alors je voudrais juste dire que l'étude de cet après-midi va se diviser en deux parties. Jusqu'à 15h15, on va donc méditer. On s'arrêtera environ 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Quand on dit 20 minutes, c'est pour pas que ça dure plus d'une demi-heure. Pour pouvoir finir après l'étude à 17h15 et pour terminer tout à 17h. Il y en a qui prennent le train, et puis ça aurait été déjà long pour beaucoup. Donc ce matin, nous avons commencé par « Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants. » Alors c'est vrai qu'on ressemble à ses parents génétiquement, et ça, celui qui devient enfant de Dieu par la foi, ressemble à son père parce qu'il a reçu, il est de la nature de son père. Et nous avons rappelé ce matin que Dieu est amour, Dieu est lumière et Dieu est esprit. Et on trouve ces trois aspects donc dans ce chapitre 5. Donc on ressemble à son père et donc c'est pour ça qu'il est, il n'est pas dit que vous devez être lumière, vous êtes lumière hein, dans le Seigneur. L'avantage avec Dieu, c'est que ce ne sont que les qualités qu'il nous transmet, à différence des parents humains. Ils transmettent des qualités et puis des défauts. Mais la deuxième chose, et c'est là dans l'exhortation, c'est qu'on ressemble, c'est ce qu'on a vu ce matin, à son père par la proximité qu'on a avec lui. Parce qu'on essaye de l'imiter, mais même sans vouloir obligatoirement l'imiter, le fait d'être en contact, eh bien, on reproduit ce que le père est. Et cela nous encourage à rechercher une relation avec un Dieu vivant. Le christianisme, ce n'est pas une religion de dogme, mais c'est une relation avec un Dieu vivant. Et c'est vrai que si on apprend à vivre jour après jour, du matin jusqu'au soir avec ce Dieu, eh bien, on lui ressemblera de plus en plus. On ressemblera au Seigneur Jésus. Le fond, on se dit, oui, je voudrais te ressembler, Seigneur.
Qu'est-ce que je fasse ?
Eh bien, il nous dit, approche-toi de moi, vis tout près. Hein, recherche-moi, recherche ma présence. Et voilà, ça va se transformer. Et c'est pour ça qu'il y a cet amour qui va nous être donné. Alors, le Seigneur a aimé, s'est donné. Et pour avoir aussi peut-être dans l'après-midi ce que ça veut dire aussi, aimer et donner. Et puis, on est au milieu des ténèbres. Et voilà des lumières. Nous sommes lumière, hein, vous êtes lumière. Et marchez comme des enfants de lumière. Donc, soyez ce que vous êtes, disait un frère qui nous visitait. Et alors là aussi, ça demande de vivre proche de celui qui est lumière. Alors ça amène concrètement des décisions. Parce qu'il y a des désirs dans notre vie, mais des décisions. Par exemple, pas de part. Hein, ça veut dire... vraiment rien de commun, pas de compromission. Il a été dit aussi, il n'y a rien de commun, hein, au verset 11. Il a dit aussi de réprouver ou de rejeter, ou en tout cas, voilà, c'est ça, réprouver. Alors on a réfléchi, mais oui, mais d'abord dans son cœur. Dans son cœur, dire non, je ne veux pas. Et puis, quelquefois, être amené à le dire. Et peut-être que une discussion de pendant le repas quand on était ensemble, vous savez, vous pouvez dire c'est difficile, on ne dit pas de morale, mais ce qu'on a un peu de peine à faire, c'est à séparer le péché de la personne. Je vais vous donner c'est une expérience, encore une fois j'aime pas trop ça, mais ce qui s'est passé une fois dans mon cabinet dentaire, c'est très court. J'ai un nouveau patient qui arrive que je ne connais pas. Il reste quelques minutes à la salle d'attente, il a dû voir les évangiles, le Nouveau Testament. Et je lui ouvre la porte, il vient dans mon cabinet, il me regarde. Docteur, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est vrai que Dieu est contre les homosexuels ? Je ne l'ai jamais vu, normalement c'est pour les dents qu'il venait. Eh bien je lui dis, Dieu est l'homosexualité, mais il aime les homosexuels. Et je crois que peut-être c'est peut-être pour dire, ah bon, et on a pu un peu parler. Tout ça pour dire que oui, les choses peuvent être réprouvées, mais voilà, être conduit pour savoir comment dire et ne pas être moraliste. C'est un peu ce qu'on a vu ce matin. Mais peut-être qu'on n'a pas souligné cette chose, c'est que c'est la lumière qui manifeste tout. Et c'est vrai que quand on est dans la présence de Dieu, même le Seigneur, pourquoi on voulait le mettre à mort ? C'est parce que sa présence même, c'était la lumière et ça éblouissait ceux qui voulaient être encore dans les ténèbres. Donc voilà, on avait un peu conclu par le fait que notre marche, notre vie, c'est elle qui démontre aussi cette lumière. Mais voilà, s'endormir, j'ai vu tout à l'heure Élie qui a fait une bonne sieste au milieu du bruit. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte au moment où il s'est endormi, mais au moment où il s'est réveillé, oui, il a vu le monde autour de lui. Eh bien, nous aussi, quand on peut s'endormir, sans se rendre compte. Et c'est au moment peut-être où, vous voyez, le mal n'est pas si mal que ça. On accepte de regarder ou finalement de se dire peut-être que, voilà. Essayez de, dans notre vie, progressivement, ce mal devient moins mal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça, comme ça, on s'endort un peu et on se rend même plus compte. Voilà, donc réveille-toi et le Christ luira sur toi. Ce n'est pas nous qui allons briller, mais le Christ va être vu. Le Seigneur Jésus, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut montrer. Et les lumières, nous sommes des portes-lumières. Donc on avait dit de la connaissance, des pensées divines. Et bien voilà, quand on vit dans une relation avec le Seigneur, on est de ceux qui transmettent ou qui manifestent les pensées divines par notre vie. Alors, on peut être dans la lumière et avoir les yeux fermés. Et alors c'est pour ça qu'on a cette exhortation avec laquelle on commence cet après-midi. Alors marchez, prenez donc garde à marcher soigneusement.
Dans une excursion, on nous avertit qu'il y a des serpents dans les parages. On va faire attention, on met les pieds. On va marcher soigneusement. Parce qu'il y a un danger. Peut-être que les frères âgés ici, qui ont fait la guerre, ont connu cette situation tragique. Il y a des grenades qui sont placées, qui sont cachées dans le sol. Si on met le pied dessus, c'est fini. On saute avec. Il s'agit de savoir où on met le pied. Marcher soigneusement. Ce verset sous-entend un discernement des choses chez le chrétien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire, faites attention sur quoi vous cliquez. Un petit clic sur la souris. Ça peut être... Et nous sommes nombreux, nous ne donnons la leçon à personne, nous sommes nombreux à un jour ou l'autre à nous être laissés piéger, justement. On a mis le pied sur quelque chose de dangereux. Et peut-être qu'après on est plus prudent. Marcher soigneusement. Non pas comme étant dépourvu de sagesse, qui nous fera discerner ce qui est bien, ce qui est mal. On a d'autres passages où il est parlé de ce discernement. Saisissant l'occasion, nous montre que c'est pas tout négatif, c'est pas seulement je rejette le mal, mais saisissant l'occasion, je vois d'apporter la lumière de la pensée de Dieu. C'est pas seulement je me garde du mal, mais dans une société corrompue, je vais essayer d'apporter cette lumière de la connaissance des pensées de Dieu parce que les jours sont mauvais. Oui, les ténèbres sont là. Les ténèbres, c'est-à-dire la non-connaissance des pensées de Dieu. C'est le royaume des ténèbres dont nous ne sommes pas. Colossiens 1. Nous avons été retirés de ce royaume des ténèbres qui ira en s'obscurcissant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans l'Apocalypse, il est dit que son royaume de Satan devint ténébreux. Toujours davantage le monde incrédule, rejetant les pensées de Dieu, va dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la non-connaissance des pensées de Dieu, et nous les chrétiens, nous les avons. Mais n'empêche qu'il faut faire attention. Dans la marche pratique, on pourrait aussi pécher. On est fragile, mais on doit faire attention. Où on met les pieds, au sens physique, il y a des lieux où on ne doit pas aller. Bien sûr, le chrétien ne doit pas aller, mais il y a beaucoup d'applications à cela.
Ça vaut la peine de s'attarder un petit peu sur l'expression de la fin du verset 16. Saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Saisissant l'occasion, d'aucuns traduisent aussi rachetant le temps. C'est un verset intéressant par rapport à notre rapport au temps. Dans le texte original, il y a plusieurs termes par rapport au temps. Et celui-là, c'est l'occasion qui se présente et qu'on a à saisir. Autrement dit, notre temps, chronos, le temps qui nous est imparti, est divisé en autant d'occasions que nous avons à saisir. Déjà au chapitre 2 et au verset 10, l'apôtre incitait à marcher dans les bonnes œuvres préparées à l'avance. Et là, il nous incite à saisir l'occasion favorable. Et donc, il y a des occasions qui se présentent au cours du temps qui nous est donné et que nous avons à saisir ou à racheter. Là aussi, c'est intéressant que le verbe puisse être vu sous ces deux angles, à la fois de saisir et de racheter, parce que c'est notre rapport par rapport au temps. Alors là, il y a deux façons de voir opposées, ou plus exactement complémentaires. Soit on peut voir ce verset-là sous l'angle de dire, il faut que je fasse le mieux possible à chaque moment qui m'est donné. Vous savez, quelqu'un disait à la fin d'une journée qu'il estimait perdu, il disait, et perdu, couronne de 24 carats sertis chacun de 60 diamants. Voilà. Parce que le temps qui nous est donné, c'est un bien qui est éminemment fongible puisqu'il passe et il ne revient pas.
Donc de ce point de vue-là, ça nous encourage à avoir un rapport au temps qui soit responsable, qui soit sage, dans ce sens qu'on ne va pas perdre nos journées. Quelqu'un disait, vous savez, on devrait mettre dessus notre écran de télé, chacun de nous qui en avons une, ce verset-là, rachetant le temps. Parce que comme chronophage, télévision, ça se pose là, hein, je crois que personne ne me démentira. Et maintenant, Internet, c'est pas mal aussi. Parce qu'on n'est pas obligé de connaître tous les sites. Donc ça aussi, il faut bien voir que notre gestion du temps, elle est très importante dans notre vie, c'est un point clé, et c'est un point qui est un point de vigilance particulièrement aujourd'hui, où on a accès à énormément de choses. C'est-à-dire, on attend le train, on rentre dans le relais de la gare, il y a combien de magazines? C'est tout intéressant. Bon, il y en a qu'on laisse volontiers, mais d'autres, il y en a plein qui sont intéressants. On regarde tel aspect, ah bah oui, tiens, ça m'intéresserait. Oh, cet article-là, on regarde un journal de voyage, un autre sur l'histoire, un autre sur la littérature, un autre que sais-je. Et on se dit, mais c'est très intéressant. Sauf que, si on passe notre temps à ça, on va le perdre. Alors, de ce point de vue-là, il faut qu'on vraiment soit attentif vis-à-vis de tous ces petits renards qui grignotent petit à petit notre temps et qu'on fasse ce qui est vraiment important. Alors, vous savez, parfois, on dit qu'il faut faire un peu de reverse engineering, c'est-à-dire regarder à l'envers les choses. On dit on a du temps pour ce qui est important. Alors, si je vous demandais qu'est-ce qui est important dans votre vie, c'est très simple. Vous me dites à quoi vous occupez vos journées, vos semaines, et puis moi je vous dirai ce qui est important vraiment dans votre vie. Parce qu'on sait toujours trouver du temps pour ce qu'on estime important. Toujours. Toujours. Donc à quoi on passe nos journées, c'est ce à quoi on attache de l'importance. Tout simplement. Et du coup, c'est intéressant de prendre les choses à l'envers en disant à quoi ai-je passé mon temps? Si c'est pour feuilleter pendant 3 heures des journaux, ben, c'est que j'estime que c'est important. Donc, faisons attention là-dessus et gardons-nous de la frustration qui est inévitable de ne pas être au courant de tout, de ne pas avoir tout lu, de ne pas avoir visité tous les musées intéressants de la région, etc., etc. Parce que ça aussi, c'est une tentation très, très forte et très moderne. Tout est à disposition. Comme tu disais, un clic de souris, tu as Wikipédia, tu as tous les sites que tu peux imaginer. Et le domaine est infini. Donc, on ne saura jamais tout. Le mythe du pic de la Mirandole s'est éteint avec l'accroissement de la connaissance à la Renaissance. Donc, c'est fini. Et de ce point de vue-là, on doit avoir une gestion sage du temps. De notre côté, c'est l'autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans la dictature de « il faut que je sois utile à 100%, etc., etc., etc. » Parce que le temps, il est racheté. Et le terme « rachat », c'est le même que celui qui est utilisé dans Galates pour nous racheter de la malédiction de la loi. Autrement dit, on est aussi racheté dans un sens de la malédiction du temps. Parce qu'on n'a pas non plus à avoir cette pression de dire « si je n'utilise pas vraiment chaque seconde, chaque minute pour le Seigneur, je vais être puni ou ça va être perdu, etc. » On a aussi à avoir une approche de grâce par rapport au temps. Et parfois, il est important de perdre un peu de temps. Et on le verra en particulier à partir du verset 22. Si on veut construire une vie de couple qui soit riche, qui soit forte, qui soit solide, ça réclame du temps. Et ce n'est pas du temps perdu que de passer du temps à changer avec son épouse, à aller main dans la main se promener dans un beau jardin comme celui-là. Anne n'était pas là, je l'ai regretté tout à l'heure. Mais c'était magnifique. Mais voilà. Mais c'est du temps aussi qui n'est pas forcément du temps perdu. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais pendant ce temps-là, je pourrais aller distribuer 3 tétés, je pourrais aller faire ceci ou cela. Non. Et du coup, on devient des malades du temps. Alors que le temps, il est racheté. Et Dieu, il nous a racheté aussi par rapport à cet aspect-là. Donc on voit ces deux aspects complémentaires de saisir l'occasion d'un côté, racheter le temps de l'autre.
Le verbe pour racheter le temps, tu as l'original, ex agorazomai, je crois. Donc si on va le prendre du marché, peut-être du marché aux esclaves, ou alors c'est quelqu'un qui arrive dans un commerce et qui dit « je vous prends tout ». Auskaufen. Je prends tout. Tout est pris. Sous-entendu, je prends possession du temps. Il est entre mes mains. Et ce n'est pas effectivement le temps qui me... dont je me laisse complètement prendre, mais je le prends entre mes mains. Et effectivement, pour le consacrer à ce qui va être vraiment important dans la vie. Alors on a un bel exemple dans l'Ancien Testament, bel ou contrasté, c'est l'exemple de quelqu'un qui a été pris dans le tourbillon. Qui a été pris dans le tourbillon. Et c'est l'exemple de Jacob en Genèse 31. Et ça parle à ceux qui d'entre nous sont dans les études, dans l'activité professionnelle, ou bien des actifs tellement des retraités tellement actifs qu'ils n'arrivent plus à visiter leurs enfants ou petits-enfants, ça existe. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est pris dans ce temps qui tourne à toute allure et qui n'a pas réussi peut-être à racheter son temps, à dire « il est à moi ». C'est Jacob, Genèse 31, et qui raconte à Laban tout ce qui lui est arrivé, verset 38, « ces 20 années, j'ai été avec toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce qui a été déchiré, je ne t'ai pas rapporté. Moi, j'ai dû en souffrir la perte. Tu m'as demandé de ma main ce qui avait été volé de jour, ce qui m'avait été volé de nuit. J'en étais là. Que de jour, la sécheresse me dévorait, et de nuit, la gelée, et mon sommeil fuyait mes yeux. Ces 20 années, j'ai été dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton menu bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. Ah, si Dieu n'avait pas été avec moi. » Et effectivement, Dieu a été avec lui, puisque Dieu lui a dit, chapitre 31, verset 13, « Je suis le Dieu de Béthel, où tu oignais une stèle, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne. » Lève-toi, sors et retourne. Donc, reprends possession de ta vie et de ton temps. On a un autre beau verset, tu parles des choses importantes. Et entre le mot « acheter » et c'est important, donc j'achète le temps parce qu'il est important, on a aussi un verset dans les Proverbes, « achète la vérité et ne la vends pas ». C'est important, c'est précieux pour toi, c'est Proverbe 23-23, « achète la vérité, ne la vends pas ». Achète ton temps, il est à toi, utilise-le. Utilise-le et ne te laisse pas prendre dans ce tourbillon des soucis et des activités. Saisir l'occasion. Un dernier exemple de saisir l'occasion, c'est le Seigneur à table. Hein, on a beaucoup de repas, hein, ça revient souvent les repas quand même. Hein. Et puis, ben, les repas, si vous étudiez l'évangile de Luc, vous verrez que le Seigneur Jésus est énormément à table. Vraiment, l'évangile de la table. Et alors, entre autres, dans Luc 14, il est à table et puis il saisit une occasion. Comme ça, prendre au vol une occasion. Et c'est, il rebondit sur une remarque, juste pour citer le contexte, Luc 14. Luc 14, verset 15, il est à table, donc il était invité chez quelqu'un qui l'avait convié, verset 12 et 15, et l'un de ceux qui était à table, ayant entendu ces choses, dit « Oh, bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu ». Voilà, il fait une petite remarque, là, une petite remarque sympathique à table, un petit peu exalté peut-être, cet assistant. Et le Seigneur, il rebondit, tout de suite, crac, il prend la remarque, un homme fit un grand souper, et il convient beaucoup de gens, et il donne un enseignement. Si on est à table, c'est vraiment une occasion conviviale, où il se dit des choses, et où on peut saisir l'occasion, on peut rebondir, et puis voilà, le Seigneur ici, il a montré un exemple.
Je pense qu'on pourrait, on a parlé de choses très pratiques concernant le temps, racheté, qui a une connotation théologique aussi, je ne veux pas y revenir, sur la notion de sagesse. Paul aime beaucoup les antithèses, les oppositions fortes. On a vu marcher dans l'amour qui s'oppose à la marche dans l'égoïsme, marcher dans la lumière qui s'oppose à marcher dans les ténèbres, on a bien parlé de ça ce matin, mais marcher dans la sagesse. Dans les proverbes, l'opposition, c'est la folie. Ce que je voudrais dire, c'est que tous ces discours qu'on a tenus sur le temps, Marc Aurèle, un empereur stoïcien, les a tenus aussi. Et il a persécuté les chrétiens. Et il disait, le matin quand je me lève, je sais que j'ai peu de temps devant moi, je dois faire mon devoir, le temps m'est imparti, j'en suis responsable, et je dois faire mon devoir. C'est donc qu'il y a quand même des interprétations différentes. Paul s'adresse à des Éphésiens, tous ne vivaient pas d'une façon dépravée dont nous avons parlé ce matin. Il y a aussi la fameuse sagesse antique. On peut dire que de Platon à Nietzsche, pour faire vite, les philosophes ont tous
rechercher la sagesse, la bonne vie, comme dit Luc Ferry dans ses derniers ouvrages. Soit dit en passant, d'ailleurs, il reconnaît que le christianisme a beaucoup de choses à apporter, mais il voudrait en enlever tout ce qui est transcendance, tout ce qui le gêne un petit peu. Mais il reconnaît que c'est quand même très beau. Ce matin, nous avons parlé des Lumières, du siècle des Lumières. Je crois que quelqu'un a parlé de ça. Ce siècle des Lumières, qu'est-ce que c'est ? La lumière, c'est la raison qui éclaire le monde, qui chasse tout ce qui est superstition, tout ce qui est inquisition, etc. C'est le courant philosophique qui a recherché la sagesse. Il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons, est directement issu de ce courant philosophique des Lumières, où le maître mot est la tolérance. Nous le savons bien. Et au nom de la tolérance, on accepte tout et n'importe quoi. Donc il y a deux sagesses. Il y a la sagesse selon Dieu, qui consiste à discerner quelle est la volonté du Seigneur. C'est ça la définition de la sagesse qui nous est donnée dans le passage que nous avons lu. Et puis il y a la sagesse des hommes, qui est bien différente. Et nous savons à quoi elle conduit. Ce courant philosophique des Lumières, aussi noble et beau dans ses arrière-pensées, a conduit au sang, à la violence, à la Révolution française. On le sait très bien, je ne vais pas développer ça. L'humanisme chrétien, dont certains se réfèrent, amène au relativisme, où on ne sait plus où est le bien, où est le mal, quelle est la volonté de Dieu, tout se discute, tout est sujet de débat. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est reconnaître quelle est la volonté du Seigneur. Être sage, le sage, ce n'est pas le sage antique, ce n'est pas le stoïcien qui avait aussi beaucoup de préoccupations éthiques, nous le savons, quand nous lisons un petit peu ces textes, certains sont même admirables. Mais reconnaître quelle est la volonté du Seigneur. C'est quelque chose qui nous concerne au quotidien. Le rapport entre la lumière et la sagesse est bien évident. Si nous avons la lumière divine en nous, alors nous serons appelés à reconnaître quelle est la volonté du Seigneur, à avoir cette sagesse divine. Je voulais simplement souligner ces deux notions de sagesse.
Pour arriver à cette sagesse, Paul présente cette personne de l'esprit, d'ailleurs qui est appelée ailleurs l'esprit de sagesse. La sagesse est liée à l'esprit qui est en nous, que nous avons. Le premier chapitre nous a dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit, ceux qui ont cru. Donc la base est posée déjà dans le premier chapitre. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ont l'Esprit. Paul ne revient pas là-dessus. Mais avoir l'Esprit ou en être rempli, c'est deux choses différentes. Déjà au chapitre 4, il avait dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il considère vraiment le Saint-Esprit comme une personne divine et une personne qu'on peut attrister. Mais ici, soyez-en remplis. Alors, Paul, dans ce verset, dans le contexte de ce verset, met de côté toute manifestation de l'Esprit qui mettrait de côté nos sens. Parce qu'il dira à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais tu as reçu un esprit de puissance, d'amour et de conseil, c'est-à-dire de sobre bon sens. Si je ne sais plus ce que je dis, il ne s'agit pas de dire que je suis animé de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est lié au vin. C'est en opposition avec le vin. Le vin ôte le sens, dit le prophète Osée. La fornication et le vin ôte le sens. Mais si quelqu'un est rempli de l'esprit, il doit être tout à fait dans son bon sens. Sinon, ça peut être d'une autre origine. C'est ainsi que s'exprime Paul. Il met en opposition cette ivresse du vin qui nous enlève nos sens, ce sobre bon sens, qui peut aller avec la puissance de l'esprit et l'amour de l'esprit, les trois choses. Attention de ne pas séparer ces trois choses, esprit de puissance, d'amour et de sobre bon sens. Et peut-être nos frères le diront plus exactement, mais dans l'original, c'est une conjugaison qui n'existe pas en français, mais qui voudrait dire soyez constamment à nouveau remplis de l'esprit. C'est pas une fois pour toutes. Et les manifestations de cette plénitude de l'esprit se composent de chants, de psaumes, d'entretiens de psaumes, de la parole de Dieu, d'hymnes, de cantiques spirituels, c'est-à-dire en opposition peut-être aux chansons, parce que tous les cantiques ne sont pas spirituels, chantant de votre cœur au Seigneur. Le Seigneur revient encore comme cet aimant qui y attire. C'est la volonté du Seigneur, ce sont vos cœurs au Seigneur, le Christ lui rassure toi. Toutes ces exhortations ne sont jamais détachées du Seigneur, du chef de l'Église et de chaque croyant.
On a donc quatre verbes qui nous sont donnés dans ces versets 17 et 18. Deux négatifs, il faut ne pas être sans intelligence, double négation, donc il faut être intelligent, et il ne faut pas s'enivrer de vin. Et deux positifs, comprendre la volonté du Seigneur et ensuite être rempli de l'Esprit. Juste peut-être un mot, la sagesse au sens biblique du terme, il me semble que c'est pas tellement une sagesse spéculative d'idées, mais comme souvent dans le livre des Proverbes, une sagesse pratique appliquée à des décisions et des situations très, très concrètes dans la vie. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Et pour cela, on a besoin de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et cette volonté, bien souvent, là aussi, on fait erreur, c'est-à-dire qu'on cherche la volonté spécifique. Ici et maintenant, dans ma vie, est-ce que c'est cette fille ou ce garçon? Est-ce qu'il faut que j'aille à tel endroit ou à tel autre? Alors que la volonté du Seigneur, quand on prend les textes bibliques, présente souvent un aspect beaucoup plus moral et de sphère dans laquelle on peut choisir librement, mais selon des principes donnés par Dieu. Alors, tu as déjà abordé ce beau texte de « Soyez remplis de l'Esprit ». Et je retiens cette analyse qu'en fait John Stott dans son commentaire très intéressant sur la lettre aux Éphésiens, où justement il dit que c'est un impératif pluriel, passif, continu. Un impératif, c'est pas une option de se laisser remplir par l'Esprit. C'est Paul qui nous le demande. Et d'un autre côté, c'est passif, c'est-à-dire que c'est pas à nous qui allons nous remplir nous-mêmes, on a laissé l'Esprit nous remplir. Et il y a cette expression que tu as relevée au chapitre 4, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, on en a une autre complémentaire en 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'Esprit, c'est donc ne pas mettre d'obstacle. Notre rôle, il est d'abord celui-là, ne pas mettre d'obstacle. Ensuite, c'est continu, on en a déjà parlé, et c'est pluriel aussi, parce qu'il y a une saine émulation, une saine atmosphère dans laquelle on peut céder les uns les autres à se laisser toujours plus remplir de l'Esprit. Et c'est bien pour cela qu'il est très important d'avoir ces connexions dans le corps de Christ dont il était question au chapitre 4. Et ensuite, la question se pose. Comment cela se montre-t-il que je suis rempli de l'Esprit? Il y a beaucoup de gens qui cherchent la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est une recherche légitime et sincère, bien souvent. Alors on la cherche dans des manifestations extérieures, on la cherche dans une démonstration de puissance. Ce que Paul dit, c'est que si on veut savoir si je suis rempli de l'Esprit, eh ben, j'ai quatre participes présents après. La nouvelle traduction qui se veut plus facile à lire les supprime un peu, mais il y a quatre participes présents qu'on a dans les versets 19 à 21. C'est de s'entretenir, de chanter psalmodier, on peut prendre les deux verbes ensemble, de rendre toujours grâce et d'être soumis, de se soumettre les uns aux autres. Donc comment puis-je savoir si je suis rempli de l'Esprit? Comment je puis savoir si mon frère est rempli de l'Esprit? Pas forcément d'ailleurs la peine de mesurer cela tout le temps. Hein. Mais si quelqu'un a une attitude vis-à-vis des autres d'entretien spirituel et de soumission, la première et la quatrième, et s'il a une attitude par rapport à Dieu de chant et d'action de grâce, eh bien, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Alors, c'est quand même quelque chose qui nous touche dans notre vie concrète, pratique. Est-ce que chanter des cantiques, ça se limite au dimanche au local? Ou est-ce que nos vies sont remplies de cantiques? Est-ce qu'on chante dans nos maisons? Est-ce qu'on chante en couple, en famille? Est-ce qu'on chante tout seul? On a plein de moyens maintenant, fantastiques. Du lecteur MP3 qu'on peut avoir dans la poche jusqu'au piano qui sont dans la plupart, dans beaucoup de maisons, etc. Il y a plein de moyens de chanter des cantiques. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un très bon signe quand on chante des cantiques, qu'on soit joyeux, et voire même qu'on soit triste. De chanter des cantiques, et c'est une preuve qu'on est rempli de l'esprit.
Alors, peut-être une question pratique toute simple. Tu donnes les tests un peu pour être rempli de l'esprit? D'accord. Mais il y a une question pratique toute simple. Je sens qu'il me manque quelque chose et comment je peux démarrer dans ce sens-là? Comment rechercher cette plénitude de l'esprit d'une façon pratique? Il n'est pas question de rechercher, d'avoir le Saint-Esprit. Dieu nous le donne, ayant cru que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais que le Saint-Esprit prenne en moi beaucoup plus de place et que ce soit quelque chose que j'avance justement dans ce que Paul nous donne ici. Ah, il y a une démarche qui est toute simple. Bon, il y a éventuellement un obstacle à lever. S'il y a eu un péché dans ma vie, il faut qu'il soit confessé, il faut que ce soit réglé avec Dieu. Mais une fois que la confession est faite, il faut aller à la source. Quand vous avez soif, cher ami, ben, je crois qu'on boit, on a mis des verres devant nous, on a mis de l'eau, et on ne se pose pas de questions. Quand on a soif, on boit de l'eau et on est désaltéré. Et pour le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et le Seigneur le disait dans Jean au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, je sais bien que le passage va jusqu'à la réception du Saint-Esprit. Il y a un autre côté, mais il y a aussi cet enseignement pratique. Je sens que j'ai soif sur le plan spirituel, qu'il me manque quelque chose dans ce fait d'être rempli du Saint-Esprit. Mais allons à l'Écriture. Allons à l'Écriture. Allons à ces aides aussi au chant et dont tu viens de parler. Mais ce sont des choses que Dieu a mis à portée de notre main pour tout de suite. Il n'y a pas besoin d'une expérience nouvelle. Il n'y a pas besoin d'un long cheminement difficile au bout du tunnel, on va trouver quelque chose. Non, non, c'est là. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on en jouisse tout de suite et que cette plénitude vienne de la part de Dieu comme une grâce.
Trois remarques sur ce verset qui fait partie des deux ou trois versets peut-être difficiles de ce chapitre. Soyez remplis du Saint-Esprit, je pense que ça veut dire examinez-vous vous-même pour voir dans votre vie intérieure ce qui pourrait faire obstacle au fait que vous ne soyez peut-être pas remplis du Saint-Esprit. Examinez-vous vous-même. Et quand on fait un tant soit peu d'introspection, je pense qu'on arrive assez vite à faire la liste de ce qui peut entraver la puissance du Saint-Esprit en nous. Et puis, je pense que nous sommes à peu près tous d'accord sur ce qui vient d'être dit, l'interprétation qui est faite de ces versets, mais nous savons que nous avons des frères dans d'autres dénominations, pentecôtistes ou autres, charismatiques, qui l'interprètent différemment, en parlant, comme tu l'as évoqué, de cette seconde expérience, de ce baptême du Saint-Esprit qui arrive comme ça, qui vous tombe dessus et qui établit deux catégories, je l'explique pour ceux peut-être qui ne sont pas bien au courant, deux catégories de chrétiens, les chrétiens ordinaires et puis ceux qui ont reçu ce baptême du Saint-Esprit et qui sont qui ont toutes sortes de charismes, de facultés et de dispositions qui sont plus spirituelles, pour te dire. Et je pense que là, on touche quelque chose qui s'est manifesté très tôt dans l'histoire de l'Église et dont nous devons être vigilants, à savoir de ne pas établir des catégories. On sait très bien qu'au Moyen-Âge, il y avait les clercs, puis il y avait les laïcs. Bon, les clercs étant l'ordre supérieur par rapport aux laïcs. On a eu, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, cette tendance toujours très marquée qui consiste à faire des chrétiens plus spirituels que d'autres, toutes sortes de raisons. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas l'enseignement qui nous est donné dans la parole. On a rappelé ce matin ce fruit qui mûrit. Il y a l'idée de maturation, peut-être d'évolution. Je peux me permettre, je ne me permettrai pas des choses à l'heure actuelle que peut-être à 18 ans ou 20 ans. Et c'est normal. Parce que la vie chrétienne est une vie de progression, de progrès. Nous devons faire des progrès. Mais pas recevoir, s'attendre brusquement à ce qu'il y ait une intervention. C'est très dangereux. Je pense que nous devons être très vigilants, y compris dans nos milieux. En ce sens que nous aurions parfois tendance, je le dis comme je le pense, d'établir une classification, par exemple, ceux qui sont en communion, ceux qui ne le sont pas. Les uns étant peut-être à un niveau supérieur à d'autres. Faisons attention, surtout vis-à-vis des jeunes, de ne pas classer d'une façon arbitraire et artificielle. Non, simplement comme cela a été dit, nous sommes invités, c'est au passif, hein, tu as énuméré, je voudrais reprendre la liste d'ailleurs de ce que tu as dit, parce que ça me semblait très juste, c'est Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui avons à demander l'effusion du Saint-Esprit qui nous tombe dessus, c'est Dieu qui nous remplit. Il va le faire, Dieu est souverain, il est maître, il le fait à sa façon, pour le bien du service. Alors, je pense que ça fait à peu près, on y sommes tous d'accord sur ce point-là, donc ce n'est pas la peine d'insister.
Je voudrais souligner une chose encore. Il est dit au verset, tu l'as dit tout à l'heure, au verset 17, « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Et quand on lit ce verset, souvent, on comprend, nous, discerner quelle est la volonté du Seigneur. Donc c'est comprendre. Ça va plus loin. Et il me semble que la clé, justement, pour comprendre, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Et on a la clé après. Être rempli de l'Esprit, soyez rempli de l'Esprit, bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je vais essayer de ne pas répéter, peut-être quelqu'un voudrait dire ici, bon, j'aimerais vraiment quand même. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire le vide. Parfois on dit, faites le vide en toi et laisse. Mais ça c'est faux. Et Élie nous a donné, il me semble, l'indication, c'est faire le plein. C'est donc ce passage de Jean 7, venir, venez à moi, et que, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je vais quand même continuer le verset, la suite que tu n'as pas lu. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Il est rempli et il y a des effets pour le bien des autres. Alors, non pas faire le vide, mais aller boire. Aller boire à la source. Excusez, j'ai répété quelque chose.
Revenir à ce que tu as dit sur la théologie à deux niveaux. Pour être encore plus précis, chez nous, on dit aussi des fois, il y a conversion et affranchissement, hein, ou bien salut et sanctification, hein, comme un peu comme deux étages. Donc là aussi, faire attention, passif, continu, donc maturation, et quelque part, on démarre tout de suite. Tout. Monsieur Georges André disait, la vie chrétienne n'est pas un téléphérique ou c'est un pays à conquérir. Donc on démarre et puis on y va et c'est tout un espace dans lequel on grandit. Alors sur la, il y a quand même, on est passé très vite, tu l'as dit Lucien, sur la comparaison entre vin et esprit, c'est quand même très frappant qu'il y ait ce lien entre les deux. Alors sûrement forte opposition, mais aussi quelques ressemblances. Alors, j'en ai noté quelques-uns au cours des quelques lectures que j'ai faites. Il y a des ressemblances. Dans les deux cas, on est sous l'influence d'une puissance extérieure, et même en anglais de spirits. Hein, les alcools s'appellent des esprits, spirits. Donc on est dans une puissance extérieure, oui. Il y a de la ferveur dans les deux cas, puisque même à la Pentecôte, on dit les chrétiens, ils sont pleins de vin doux. Donc le rapprochement était là. La personne qui a trop bu, elle chante. Mais dans notre passage, on va chanter des cantiques. Donc, à la fois ça ressemble et à la fois, bien sûr, très différent. La personne qui a trop bu n'a pas honte, puisqu'elle fait des choses dont elle aurait honte, sinon. Alors, n'ayons pas honte aussi d'être nous-mêmes et d'aller vers l'extérieur, de nous montrer peut-être un peu plus. Et puis, les frères américains, les commentateurs américains, vous savez qu'en Amérique, l'alcool est... mais qui ont quand même l'ouverture d'esprit de dire autour d'un verre, il y a une certaine convivialité. Et effectivement, dans dans la communion chrétienne, dans la plénitude d'esprit, il y a aussi une convivialité. Et puis alors, il y a les grandes différences. Bon, l'alcool qui conduit à la débauche, hein, ou dissolution, ça c'est clair. Et puis ce que tu as dit, Lucien, l'alcool qui fait perdre le contrôle de soi, alors que le contrôle de soi fait partie des fruits de l'esprit, hein, c'est la tempérance, enfin le contrôle de soi, hein, qui est un des fruits de l'esprit. Et puis le verset de Pétro Corinthiens, l'esprit des prophètes est toujours soumis aux prophètes. Donc on ne perd jamais son contrôle quand on est rempli de l'esprit. Et puis une dernière pensée, enfin il y en aura sûrement d'autres, mais une que j'ai notée, c'est que l'alcool est parfois utilisé pour perdre le contact avec le quotidien. Alors que la plénitude de l'esprit, elle nous inscrit complètement dans l'action du quotidien.
Les premiers chrétiens, donc dans ce jour de Pentecôte, du premier Pentecôte, où ils étaient accusés d'être... d'être rempli de vin doux, d'être ivre. Bien au contraire, il est dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et ça serait intéressant, si on avait le temps, de voir les différents passages où les premiers chrétiens, où les apôtres, étaient remplis de l'Esprit. Il s'est dit, par exemple, d'Étienne, il était rempli de l'Esprit. Et il faut bien avoir conscience que si un frère ou une sœur est rempli de l'Esprit, il sera le premier à ne pas le savoir. C'est les autres qui peuvent voir des manifestations de l'Esprit. Lui, il ne s'occupe pas de ça. Et le Saint-Esprit, dans les apôtres, était tellement actif qu'ils étaient tout occupés du Seigneur. Mais oui, c'est ce Seigneur est ressuscité depuis quelque temps, occupé leur cœur et leurs pensées. Ils n'avaient que ce Seigneur devant leurs yeux. Et le Seigneur Jésus l'a dit, dans le rôle béni de l'Esprit, dans les chapitres 14, 15 et 16 de Jean, eh bien, celui-là me glorifiera. Il résume tout. Bon, il y a quatre choses. Il redira les choses que je vous ai dites, les évangiles. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi, les actes. Il vous conduira dans toute la vérité, les épîtres. Et il vous annoncera les choses que je... qui vont venir, l'Apocalypse et les écrits prophétiques des différentes épîtres, comme l'épître de Jude et la deuxième de Pierre. Donc le Seigneur a dit des choses merveilleuses sur l'activité de l'Esprit. Quand on lit ces chapitres, il va jusqu'à dire, c'est avantageux que moi je m'en aille, parce que moi j'étais avec vous, mais l'Esprit sera en vous. On n'en croit presque pas ses yeux. On dit, ah, mais on serait heureux si le Seigneur était encore sur la terre, si on pouvait le voir. Non, on a une place privilégiée parce qu'on a l'Esprit de Dieu, une personne, c'est notre ressource. On ne pourrait pas exagérer l'importance de l'Esprit de Dieu dans le croyant à l'heure actuellement. C'est la grande caractéristique de la période où on vit. Un Seigneur glorieux, d'ailleurs c'est dans cet épître, à la fin du chapitre 1, un Seigneur glorieux, ressuscité, glorieux, assis à la droite de Dieu, nous en bas, avec l'Esprit, dans le pèlerinage de l'Église, et avec la parole. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas l'Esprit? Bien sûr, nous avons à rechercher, à en être remplis, et nous avons ces aides, pour ainsi dire, à la fois ces manifestations, je les vois, et ces aides, ces psaumes, ces cantiques spirituels, et c'est le fait aussi de, ensemble, parce que c'est écrit à une assemblée, donc c'est collectif, hein, de pouvoir rendre grâce ensemble, et au nom du Seigneur, de pouvoir être soumis les uns aux autres, donc dans la communauté chrétienne. C'est une merveille ce qui est dit là. Mais c'est une merveille, mais quel contraste avec le monde des ténèbres qui a précédé et duquel on a été retiré, mais dans lequel on est encore. On doit pratiquer ces choses bénies avec le secours d'esprit dans le monde tel qu'il est. Mais c'est une merveille, une communauté pareille, qu'on la soit dans nos églises respectives.
Juste, j'aimerais poser une question sur la première suite, donc sur la première preuve d'être rempli de l'esprit, cette preuve, cette assurance, vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sur cette partie-là, il me semble, mais peut-être que je me trompe, je pose cette question à mes frères, que ce n'est pas tellement de répéter ce qui est écrit, des psaumes, des hymnes, mais c'est d'exprimer ensemble, de partager ensemble, de s'entretenir ensemble de ce que je vis avec le Seigneur et de ce que le Seigneur a fait. Est-ce que c'est plutôt le sens? Ce n'est pas une répétition d'un psaume que nous connaissons, cela peut l'être, mais est-ce que ça ne va pas plus loin? Nos entretiens soient des entretiens spirituels.
Peut-être qu'on a un éclairage à travers le passage parallèle en Colossiens 3, au verset 16 et 16, où il nous est dit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres en toute sagesse, chantant à Dieu dans votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, Paul aurait pu répéter un peu les mêmes choses dans les versets 19 et 20, plus exactement début du 19, fin du 19, mais dans un cas il dit « vous entretenant », le deuxième participe présent c'est « chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur ». Donc le premier s'adresse plutôt aux frères, le deuxième dans la dimension horizontale, le deuxième c'est plutôt dans la dimension verticale, où on chante et on psalmodie à Dieu. Alors, les moyens des entretiens, c'est les psaumes, c'est les hymnes et les cantiques spirituels. Alors, bien entendu, quand on est ensemble et que l'un indique un cantique, que ce soit d'ailleurs le cercle de l'Église réuni comme tel, un petit groupe, voire même jusqu'au couple, eh bien, c'est un enseignement que de choisir tel ou tel texte. Mais c'est aussi un moyen d'utiliser les psaumes, les cantiques, pour justement nous instruire les uns aux autres. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, on utilise les textes d'autres pour être un vecteur de sa propre spiritualité. Alors, c'est vrai que nous sommes plutôt culturellement poussés à exprimer notre spiritualité avec nos propres mots, parce que nous trouvons que la liturgie, même si on retombe bien souvent dedans, mais ça c'est un autre sujet. Eh bien en fait que la liturgie n'est pas forcément le meilleur moyen d'exprimer sa vie spirituelle avec Dieu, mais néanmoins les paroles que d'autres ont trouvées parfois permettent d'exprimer ce que soi-même on aurait de la difficulté à dire, et en particulier les 150 psaumes inspirés. Il faut voir que c'est frappant que les psaumes ont été redécouverts à la Réforme, et que je trouve dommage qu'il y ait eu une espèce d'éclipse. Heureusement, ça revient maintenant. Dans notre recueil hymnes et cantiques, il y a très peu de psaumes. Très peu. Et c'est bien dommage, puisque c'est le premier moyen qui est marqué ici par Paul. On devrait s'encourager, s'entretenir les uns les autres avec des psaumes. Pourquoi? Parce que les psaumes, on les a renvoyés aux résidus, en exagérant sans doute l'aspect prophétique par rapport aux autres aspects, alors que ce sont des moyens d'entretien spirituel. Et pourquoi? Parce qu'ils touchent justement notre état d'âme. Les psaumes sont l'expression inspirée biblique des états d'âme variés que peut avoir un fidèle, c'est-à-dire tout un chacun d'entre nous. Et de ce point de vue-là, les psaumes sont un vecteur particulier. Et cet entretien peut se faire par l'intermédiaire de psaumes, d'hymnes qui sont plutôt un aspect de louange, et on voit combien l'accent est mis dans ces textes sur la reconnaissance, l'action de grâce, la louange vis-à-vis de Dieu, et Paul en a donné l'exemple en donnant deux prières de louange au début du chapitre 1 et puis à la fin du chapitre 3 de cette même lettre, et des cantiques spirituels, là c'est plutôt une expérience moins directement adressée à Dieu, mais d'échange entre nous, comme le psaume 95, « Venez, adorons le Seigneur, agenouillons-nous ». Il y a beaucoup de psaumes aussi qui ont cette notion-là, d'échange entre nous, d'expérience de la vie chrétienne. Dans les vieux recueils, je pense aux ailes de la foi, il y avait des titres sur les parties, les cantiques étaient classés un peu par thème, et il y avait un thème qui, c'est une expression qu'on n'utilisera plus beaucoup aujourd'hui, qui s'appelait « aspiration de l'âme ». j'ai envoyé en haut, aspiration de l'âme. Et c'est des cantiques qui me semblent être tout à fait relatifs à cantiques spirituels où le thème développé dans ces divers chants, c'était plutôt comment vivre sa vie chrétienne et l'exprimer à travers un chant. De sorte que, il me semble que ce texte est très fort pour dire, pour insister sur l'importance du chant. Et par rapport à Colossiens 3, verset 16, j'aimerais faire un parallèle entre que la parole du Christ habite en vous richement et vous laissant toujours continuellement davantage remplir par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a un très fort lien entre l'Esprit et la parole. On va sans doute le retrouver dans les versets qui suivent au verset 25 et 26. Mais il y a un très fort lien entre l'Esprit et la parole de Dieu. L'Esprit est la vérité, la parole est la vérité. Et donc comment aussi se laisser remplir par l'Esprit de Dieu ? C'est en laissant la parole du Christ habiter en nourrissement, et du coup l'entretien se fera tout spontanément. Et pour cela, on peut revenir un instant à la fin du verset 18, en quoi il y a de la dissolution. Le terme dissolution, c'est proprement de l'indiscipline, une vie désordonnée. Alors, on peut aller loin là-dedans, mais c'est tout simplement un manque de maîtrise de soi. Or, le dernier caractère du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc ça veut dire aussi une certaine discipline dans sa vie chrétienne. Une discipline de lecture de la parole, une discipline de chant peut-être, de prière, etc. Et c'est un moyen par lequel nous serons remplis du Saint-Esprit.
On a parlé déjà au moins deux fois des actions de grâce, et on nous demande d'insister sur ce point. Ça nous a été demandé à la pause tout à l'heure. Alors, je voudrais faire remarquer qu'on a déjà trouvé les actions de grâce au verset 4. C'est dans un contexte tout à fait un peu différent, mais quand même dans nos relations les uns avec les autres et dans ce qu'on peut s'apporter. Les actions de grâce du verset 4, me semble-t-il, c'est pas une prière tellement, mais c'est plutôt quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu et qui le dit. Ah, quel beau temps nous avons aujourd'hui. Il pleut pas, il fait pas trop chaud. Hein? Mais il y a bien d'autres sujets d'être reconnaissant. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais j'ai été souvent édifié fortement dans ma vie par quelqu'un qui était heureux des circonstances, de ce qui se passait, de tel événement, de ce qu'avait fait quelqu'un de plus jeune. Ces actions de grâce qui nous font tellement de bien dans les conversations ensemble et qui sont vraiment un antidote aux vilaines choses qu'on avait trouvées au verset 3 et au verset 4. Alors des actions de grâce déjà dans nos paroles. Et puis alors, si nous sommes remplis de l'Esprit, ces actions de grâce, ça ne sera pas que l'échange entre nous, mais elles vont aussi monter vers Dieu, et c'est ce que nous trouvons alors au verset 20, comme résultat d'être remplis de l'Esprit, de l'action de l'Esprit en nous, du Seigneur qui brille sur nous, et alors nous pouvons donc rendre grâce à Dieu. Un dernier mot, bon, nous prions souvent ensemble, on a des réunions de prière. Est-ce que c'est des réunions de demande ou des réunions d'action de grâce ?
L'action de grâce peut aller même jusqu'à la scène. Le Seigneur Jésus a rendu grâce. Et le mot Eucharistie veut simplement dire action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour la bénédiction que nous apporte le sang et le corps du Christ. Donc ça, c'est pas pour tout. Mais le chrétien, c'est un homme qui rend grâce pour tout. Et c'est un antidote au péché, même je dirais à la dépression peut-être.
Simplement une remarque concernant les cantiques, les hymnes, etc. Tous les réveils ont été marqués par un renouveau du chant. C'est frappant de voir que quantité de cantiques, nous avons nous-mêmes un héritage hein, de ces courants, différents courants du réveil, qui ont été marqués par une explosion de chants, d'hymnes. On peut imaginer qu'ici, à côté des psaumes, il y avait aussi des chants qui montaient spontanément. On a toujours du mal à imaginer comment se réunissaient les premiers chrétiens. Parfois, nous avons des visions très figées, très normatives. On dit, voilà, nous, on essaye de faire ce que faisaient les premiers chrétiens, hein, puisque c'est notre norme. On ne sait pas trop, en fait, comment ils faisaient. Je pense que des fois, on devrait regarder un peu du côté de la Kabylie. Je pense qu'on apprendrait beaucoup de choses actuellement. J'ai vu Pierre-Henri Nau, qui est allé en Kabylie. Il m'a montré ses films, ses reportages. Moi, j'ai eu le sentiment que les premiers chrétiens se réunissaient comme ça. Et on chantait beaucoup. Beaucoup. Il n'y avait pas de liturgie, on chantait beaucoup. Quant aux psaumes, une remarque simplement, les protestants, traditionnellement, ne chantaient que les psaumes. On n'allait pas introduire de la poésie humaine dans le culte. Ce n'est qu'après, avec le courant du début du réveil du XIXe siècle, qu'on a introduit nos chants, d'une origine souvent assez parfois lointaine. La deuxième chose, en lisant ces passages-là, c'est qu'on a le sentiment qu'on communiquait beaucoup dans ces assemblées. L'échange se faisait, on s'entretenait, on se soumettait les uns aux autres. Quand on reprend les quatre participes présents, on voit que vraiment il y a de la communication, c'est pas figé. Les gens ne sont pas là pour suivre un rite, une liturgie. Il y a beaucoup de liberté, on a le sentiment qu'il y a aussi beaucoup de communication entre eux. Je pense que c'est une leçon aussi pour nous, la façon dont nous vivons nos réunions.
Le vin aussi est l'expression de la joie. Et il est curieux de voir que dans ce contexte, il est parlé de vin, on est bien de se demander pourquoi. Alors la vraie joie, nous la trouvons bien sûr en Christ. On sait que la joie qui vient de l'homme, elle est éphémère bien sûr, mais combien de personnes usent de beaucoup de vin pour oublier leur peine. Alors pour le chrétien, s'il est rempli de l'esprit, il n'aura pas besoin de ces choses, n'aura pas besoin de goûter les joies du monde. Mais nous avons ainsi cette joie intérieure que l'esprit du Seigneur est en nous, et il en résulte ainsi les effets pratiques. Il y a ces chants, ces cantiques qui expriment notre joie. C'est ce que nous faisons souvent le dimanche matin, bien sûr. Alors il y a les actions de grâce, et il est curieux de voir qu'il est dit que rendant toujours grâce, est-il dit, ce mot toujours, ou bien en tout temps, il faut rendre grâce à Dieu parce que il est dit pour toutes choses aussi, non pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les plus petites, tandis que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Mais on voit aussi que, et à Dieu le Père bien sûr, mais étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, s'il n'y a pas cette soumission dans notre assemblée, nous allons perdre cette joie. La joie entre nous va être ternie, étant soumis les uns aux autres. On voit qu'il faut garder assez cette unité dans la paix et dans la joie.
Cette joie centrale qui est là, toujours et en toute chose, et qui va nous permettre de rendre grâce, même s'il y a des choses difficiles. Vous avez parlé des petites, mais il y a aussi les difficiles. C'est vraiment quelque chose à apprendre et aussi à pratiquer en famille. On va voir que la famille va être introduite, là, avec les femmes, les enfants, etc. Un frère disait que la joie chrétienne, la joie centrale, cette joie du fond, c'est pas comme un thermomètre qui réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur, mais elle fonctionne plutôt comme un thermostat, c'est-à-dire qu'elle va donner, c'est tellement intérieur, ça va donner en fait ma réponse, ma reconnaissance à ce qui vient de l'extérieur, qui va donner la température spirituelle, comme un thermostat donne la commande, va donner la température spirituelle de ce qui m'arrive de l'extérieur. Non pas comme un thermomètre, la joie chrétienne, pas comme un thermomètre, mais comme un thermostat. Et alors rendre grâce en toute chose. Et on va voir l'impact dans la famille. On parle des familles, souvent le foyer. La famille, c'est l'endroit où on est le mieux traité et où on se plaint le plus. Et oui. Donc apprendre cette reconnaissance aussi aux enfants, à tout le monde, cet esprit de reconnaissance. Et alors, il y a la reconnaissance pour toutes les choses de la vie et puis la reconnaissance pour les personnes. La reconnaissance pour les personnes, dire merci pour les parents qu'on a eus, dire merci pour des frères et sœurs, dire merci pour un conjoint, dire merci pour un enfant, dire merci pour un chef. Et on va voir le lien spirituel entre reconnaissance et soumission. Parce que si je dis merci pour mon nouveau chef, qui a été nommé cette semaine dans mon cas, mais dire merci pour quelqu'un, c'est, ça va aider ensuite à être soumis. Et dire merci les uns pour les autres, ah ben j'ai ce frère, j'ai cette sœur, j'ai mon conjoint, j'ai, eh bien ça va nous aider à vivre cette soumission les uns aux autres.
Le verset 20 pourrait choquer certains. Il y en a ici dans la salle qui disent « Il m'arrive une circonstance très difficile, je suis victime d'une injustice, quelque chose qui est vraiment contraire à la pensée de Dieu, à ce qu'est Dieu en lui-même, et on l'a vu, ce qu'est Dieu, lumière, amour. Comment puis-je rendre toujours grâce pour toute chose ?» Pourquoi Paul me demande cela ? Pourquoi, si je suis rempli de l'esprit, je devrais faire cela ? Alors on comprend qu'il ne faut pas exagérer la portée des choses. Dieu est toujours en colère contre le mal et on n'a pas à rendre grâce pour le mal qui nous arrive, et au contraire, on l'a à appeler mal, comme Dieu le fait. Cela étant, c'est vrai que Dieu, d'une façon mystérieuse, utilise souvent dans nos vies les circonstances qui sont objectivement un mal pour en tirer un bien, qui permet ensuite de rendre grâce. Peut-être qu'un des exemples magnifiques que l'on a, c'est l'histoire de Joseph. Est-ce que c'était bien que les frères vendent Joseph à une caravane ismaélite et qu'il soit traîné, imaginez-vous traverser la péninsule du Sinaï derrière une caravane de chameaux, ça n'a pas dû être gai à 17 ans alors qu'on vit dans un petit cocon chez son papa chéri. Est-ce que c'était un bien cela ? Est-ce que c'était un bien que de se faire accuser d'avoir couché avec la femme de son patron alors qu'au contraire il avait été totalement pur dans l'histoire? Est-ce que c'est un bien de se faire oublier par quelqu'un avec qui, pendant 2 ans, envers qui on avait été bon? Absolument pas. Mais comme le dit Joseph quand il retrouve ses frères au chapitre 45, ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7, et Dieu m'a envoyé devant vous. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu, etc., etc. Et puis, il y a une expression aussi, je n'arrive pas à la retrouver là, vous l'aviez pensé en mal, mais Dieu l'a pensé en bien, aussi au chapitre 50 et au verset 20. Vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il est aujourd'hui. Alors il y a des fois où, comme il est aujourd'hui, nous le verrons qu'au ciel. Il y a des gens pour lesquels le mal qui leur est arrivé n'a pas pu résulter en un bien comme Joseph a pu le vivre. Parce que l'histoire de Joseph, elle se termine bien. Pour certains, l'histoire ne se termine toujours pas bien. Mais au bout du compte, il y aura quand même des actions de grâce possibles. De sorte que ce verset-là peut être pris de façon encourageante, rendant toujours grâce pour toute chose. Et on a ce verset mystérieux et qu'il faut appliquer avec mesure à des personnes quand elles sont dans la difficulté. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Et l'apôtre continue verset 29, par quoi ? Par une suite de verbes qui aboutissent à la gloire. Parce que c'est là, ultimement, que le fruit de tout ce qui nous arrive sur la terre sera manifesté en action de grâce pour l'éternité. Un autre point sur étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, ce quatrième participe présent. On peut traduire, il me semble que c'est ainsi que le font un certain nombre de traductions, et ça me semble plus juste, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi ? Parce que se soumettre, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les versets suivants, mais se soumettre, c'est un acte volontaire, c'est pas quelque chose qu'on nous impose, c'est un acte volontaire dans lequel je me place sous l'autorité reconnue de quelqu'un. Alors, cela, nous devons le vivre dans l'Église. Et Paul n'aborde pas ce thème-là dans cette lettre aux Éphésiens, mais pour autant, d'autres auteurs du Nouveau Testament le font, et je pense en particulier à ce verset de 1 Pierre au chapitre 5, où il est demandé aux jeunes gens d'être soumis aux anciens. Donc il y a une soumission dans l'Église, parce qu'il y a un ordre avec des anciens qui sont établis par Dieu, auxquels on a à se soumettre. Peut-être d'ailleurs collectivement, c'est des sujets sur lesquels on ferait bien de réfléchir dans nos diverses églises locales, sur ce sujet-là. donc de le soumettre aux anciens. Cependant, et c'est la force de ce texte de Éphésiens 5:21, la réciproque est en partie vraie, puisque un des caractères de l'ancien, selon Tite 1, c'est précisément qu'il ne soit pas adonné à son sens, c'est-à-dire pas obstiné, c'est-à-dire prêt à reconnaître s'il y a un jeune qui a une bonne idée, que ben, peut-être son idée qu'il avait jusque-là, ce n'est pas forcément la meilleure idée à maintenir envers et contre tout. Et on vit, dans le cadre de l'ordre voulu par Dieu, cette soumission les uns aux autres. De la même manière dans le couple, mais ça, on aura l'occasion peut-être d'en toucher un mot tout à l'heure. Et cette soumission doit se faire dans la crainte de Christ, la crainte à, encore un terme difficile, on va le retrouver au verset 33, il va falloir un peu voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être que le profond respect serait plus cohérent avec la connotation que l'on donne au mot crainte, qui est souvent très négative. L'amour parfait chasse la crainte. Et on a bien vu au début qu'on était dans l'amour du Seigneur Jésus. Donc dans le profond respect de Christ, c'est-à-dire que cette soumission, elle s'enracine encore une fois, comme tant d'expressions de cette lettre, dans notre relation avec le Seigneur Jésus.
On regarde en toutes choses, comme tu dis, c'est après. Je crois que Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes, des stoïciens. Tout s'écroule autour de vous et puis on va se mettre à genoux en disant merci beaucoup, qu'est-ce que c'est agréable. C'est pas ça. C'est pas de la super spiritualité. Mais de notre côté, on a l'exemple du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il commence son ministère dans l'évangile selon Matthieu, dans un sens, c'est un échec, il est rejeté. Et au chapitre 11, en fait, il va y avoir un virage dans son service, mais il est rejeté. Et qu'est-ce qu'il dit en ce temps-là? En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. » Oui, Père, c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Donc au moment d'un relatif échec ou de son échec, il n'est pas reçu, il rend grâce. Et c'est vraiment pour nous un exemple. Et il rend grâce parce qu'il voit ce que Dieu va produire. C'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Alors, dans nos vies, savoir, quand on a des pourquoi, des questions dont on n'a pas la réponse, eh bien, savoir s'arrêter et puis dire à Dieu, oui, j'accepte. Et puis, dans ce sens-là, dans un esprit de remerciement aussi. Mais, vous savez, soyons à notre niveau. Et puis, une autre chose encore par rapport à l'autorité. Souvent, ou la soumission. On dit parfois, dans les assemblées, on a un problème d'autorité. Moi, je crois qu'on a un problème de soumission, pas d'autorité. Et à un moment donné, juste pour essayer d'expliquer un peu ce qu'est à la fois et l'autorité et la soumission, dans l'évangile selon Luc, vous connaissez l'histoire du centurion dont l'esclave est malade, hein, et puis les chefs du peuple vont voir le Seigneur, et puis il est digne que tu viennes, et puis le centurion va vers le Seigneur, et puis il dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes, et il dit, mais moi aussi je suis un homme qui est sous l'autorité d'autrui, et je dis à mon soldat, va, et il vient, il vient. C'est très étonnant. Moi j'aurais compris que ce soit écrit, moi je suis un homme qui ait l'autorité, puisque je dis à mon soldat, va, il vient, et toi tu as donc l'autorité pour faire ça. Non, il dit, je suis sous l'autorité, donc je suis soumis. Et étant soumis à cette autorité, alors il a une autorité. Il dit au Seigneur, toi tu es soumis à ton Dieu. Tu es quelqu'un qui est soumis à Dieu, donc tu as l'autorité. Et au fond, dans la vie de... et qui donne une harmonie juste avec une vraie autorité venant de Dieu et une vraie soumission venant de Dieu dans les différents cas qui peuvent se poser. Mais la vraie source, au point de départ, c'est toujours la soumission.
On reprendra.
Et un petit erratum. J'ai dit tout à l'heure que l'action de grâce était un antidote de la dépression. Je corrige sur le conseil d'une personne ici. L'action de grâce est l'antidote seulement de la déprime et non pas de la dépression qui peut être une vraie maladie qu'on a soignée par des remèdes. Il ne faut pas que personne soit choqué.
La question qu'on a devant nous dans les versets 22 à 33 est, me semble-t-il, délicate. Et c'est délicat aussi de le traiter, d'abord parce que ce ne vont être que des frères qui vont s'exprimer. Et de ce point de vue-là, on n'aura que la moitié de la vision des choses. C'est aussi un texte délicat. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui génère du prurit chez certains. Moi, je me rappelle une jeune sœur qui venait de se marier et qui se félicitait de ce que, heureusement, le jour de son mariage, on n'avait pas eu à subir Éphésiens 5. Alors, c'est aussi un texte difficile parce que c'est un texte qu'on connaît très bien, en particulier les versets 25, la fin du verset 25 jusqu'au verset 27, des choses qu'on lit très souvent. Au culte, qu'on cite aussi très souvent, et ça fait partie de ces textes ronrons, vous savez, qu'on a déjà entendus, on pourrait les dire par cœur, etc. Mais comme une douce musique, ils glissent parfois sur nous sans qu'on en retienne vraiment l'essence et la substance. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement utile qu'on ait une réunion d'études sur ce texte-là. Pas simplement un verset cité au milieu d'un culte, pas simplement quelque chose, mais une étude du texte. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on étudie le texte, on s'aperçoit qu'il est plus riche, plus équilibré, plus approprié, plus opportun qu'on ne le pense peut-être qu'à une lecture superficielle et immédiate. Et donc, de ce point de vue-là, ça vaut la peine de prendre le temps d'étudier ces versets 22 à 33, dans toute la difficulté qui existe et qui est la leur par rapport au contexte dans lequel on est appelé à vivre. Mais comme on le disait, il y a les mais. Par rapport à aujourd'hui, on a à trancher. Et c'est vrai que ce sont des textes qui ne sont pas politiquement corrects, surtout en France, aujourd'hui, mais qui ont leur pertinence. Mais ce sont des textes aussi qui fonctionnent moins par mais que par comme. On a vu déjà ces deux conjonction dans la première partie de notre lecture jusqu'au verset 21, si du moins on dit ainsi, mais là on verra beaucoup de comme. Et de ce point de vue-là, on va être encouragé par ces exemples. Comme on l'a souligné déjà, le verbe soumettez-vous du verset 22, que je préfère à soyez soumise, parce que c'est la forme verbale, on peut traduire par l'un ou par l'autre, hein, donc le texte grec laisse l'ambiguïté. Mais il me semble que le texte a une dynamique en lui-même qui permet de favoriser la traduction « soumettez-vous ». Le verbe lui-même ne figure pas dans les meilleurs manuscrits. Il a été rajouté après par des scribes qui voulaient qu'on comprenne bien, tout simplement parce que c'est la suite naturelle du verset 21. Donc on a trois versets 22, 23, 24 qui concernent les femmes. Ensuite, on a du verset 25 au verset 33 au début qui concerne les hommes, et un petit rappel à la fin du verset 33 pour les femmes. Donc si on regarde les versets, sur 12 versets, c'est du 3,5 contre 8,5. Autrement dit, on en aura plus pour nous les hommes que pour vous les femmes. Il y en aura beaucoup, beaucoup plus pour nous. Et je pense qu'on le verra, ce sera aussi beaucoup plus exigeant, paradoxalement pour nous, que pour vous, de prendre ce texte-là. Et ces textes sont construits avec chaque fois un ordre, soumettez-vous, aimez, avec ensuite un exemple ou un rapport au Seigneur Jésus qui nous est donné, et pour les hommes, un autre rapport qui nous est donné dans les versets 28 à 31, qui est le rapport à la nature. Donc pour les femmes, le rapport sera au Seigneur. Pour les hommes, le rapport sera à la fois au Seigneur et à la nature, le fait qu'on aime et on prend soin de notre propre corps. Parce que nous, on a besoin d'une double motivation, sans doute.
Ce passage est difficile aussi, à présenter parce qu'il y a deux sujets qui s'imbriquent. Jusqu'au verset 21, l'apôtre Paul parle à la communauté à Éphèse, à tout l'ensemble, bon, sans faire de distinction. Et puis après, il va faire des distinctions. Parce que si nous sommes tous enfants de Dieu, comme il a dit, nous ne sommes pas tous hommes et nous ne sommes pas tous femmes. Maintenant, il va parler à des différentes catégories et il va parler en rapport avec la famille. C'est un autre cercle intimement lié à l'assemblée, à l'église locale, puisque l'église locale est finalement composée de familles. Mais là, elles sont distinguées. Et dans les familles sont composées du couple, homme-femme, la logique normale, les enfants, mais aussi souvent dans ces familles antiques, comme au temps de nos arrière-grands-parents, où il y avait des serviteurs dans les maisons, des journaliers qui étaient là, à table, et puis il y avait aussi à l'époque des maîtres, maîtres-esclaves. Donc tout ça, c'était dans la maison. Et donc je disais que c'est un sujet difficile parce qu'il y a deux sujets qui s'imbriquent. Paul parle à ces différentes catégories. Et finalement, le sujet de Christ l'Assemblée par rapport au couple est incident. C'est incident. Mais ce sujet incident devient le sujet principal, finalement. Et fondamental. Et Paul s'attarde sur Christ et l'Assemblée avec l'image du couple. Et c'est vraiment touchant que Dieu, et on en reparlera, je pense, beaucoup on appuiera sur cette pensée, que Dieu a voulu donner sur la terre, dans notre humanité, et dans les rapports homme-femme, jusqu'à l'intimité du couple, l'image de ce grand sujet, de ce grand mystère qui est Christ et l'Assemblée, qui commence en Genèse 2 jusqu'à Apocalypse 21. Et finalement, c'est un sujet difficile à méditer parce que le couple, les relations conjugales et ce sujet de Christ et l'Assemblée s'imbriquent, s'entrepénètrent. Et c'est de toute beauté, on va découvrir des merveilles. Mais ce sont deux sujets aussi distincts, notre vie de couple et ce mystère de Christ et l'Assemblée. Que le Seigneur nous aide à éclairer cette magnifique portion que nous avons, on peut dire, unique dans la Bible. Unique.
On peut aussi se poser la question pourquoi l'apôtre insiste tant sur la famille. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison théologique, on en a parlé tout à l'heure, l'imbrication de l'Église, l'époux et l'épouse, qui anoblit donc les relations conjugales. Il y a aussi, je pense, une raison, on va dire, presque utilitaire, missionnaire. Le but de Paul, c'était de diffuser le christianisme dans un monde païen. Et je pense que dans sa pensée, une famille chrétienne vivant selon les valeurs, l'éthique, la morale chrétienne, est un puissant facteur d'évangélisation pour les autres. Je me souviens d'avoir été en Afrique il y a déjà pas mal de temps et d'avoir vu des missionnaires et ils nous avaient dit « Mais venez avec vos enfants, parce que ces gens vont voir une famille chrétienne. » Ce qui n'était pas si évident à cette époque-là en Côte d'Ivoire. Ils vont voir une famille chrétienne. Ça, c'est un puissant facteur d'évangélisation. Bien sûr, on a parlé ce matin de contextualisation. Je pense que de nos jours, nous le savons tous, la famille est très attaquée. Le triomphe de Satan, provisoire, c'est bien sûr de disloquer la famille. Et il y a des raisons à cela. C'est la marque d'un anti-christianisme. S'en prendre à la famille, qu'on le veuille ou non, sous multiples formes, juridiques, etc., c'est s'attaquer au christianisme, au fondement, à la base même du christianisme. D'où l'intérêt que nous avons à regarder ça de près. Nous avons un privilège dans nos assemblées, je ne sais pas, peut-être que nous ne nous en rendons pas tous compte, mais il est bien réel, et je vais vous le dire, c'est que nos assemblées sont constituées de familles. Alors ça semble évident, pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand on voit les nouvelles communautés qui se constituent à droite, à gauche, on voit que très souvent c'est un agrégat de femmes délaissées, de femmes qui ont eu beaucoup de problèmes essentiellement, d'hommes qui ont bourlingué, qui ont mené leur vie et puis qui viennent à la connaissance. Tant mieux. Mais des familles constituées avec un couple qui vit selon les enseignements du Seigneur avec des enfants, je dirais que c'est un produit rare et donc précieux, on va dire. Et dans la pensée de Paul, quand on voit par exemple, quand il faut reprendre la situation en Crète, il dit à Tite, mais voilà comment il va falloir reprendre tout cela, et la reprise se fait par la famille. C'est dans la famille que nous allons voir, bien sûr le modèle de l'Église, ça c'est l'idéal, c'est l'élévation suprême, mais comment fonctionne une société chrétienne. Et je pense même, peut-être, c'est peut-être poussé un petit peu, mais que Paul en disant les familles vont vivre comme ça, mais les familles, en fait, c'est l'embryon de base de la société. Et si les familles vivent vraiment leur christianisme, la société elle-même finira par se christianiser, voyez, par élargissement. Alors, ce sont des sujets, effectivement, d'actualité dans le contexte dans lequel nous vivons.
Alors, ceux qui trouveraient que l'enseignement de Paul ici est rétrograde, vieux jeu et tout ça, se trompent un peu parce qu'en fait il est très moderne. Si on imagine qu'on est au 1er siècle et qu'il a un paragraphe sur les femmes, un paragraphe sur les enfants, un petit paragraphe sur les pères et un sur les esclaves et les maîtres, ben déjà le fait qu'il y ait un paragraphe pour chacun, alors ça nous paraît tout naturel qu'on parle des enfants. Ça c'est très moderne de parler des enfants, hein. Même déjà, je crois, il y a peu de générations, on en parlait beaucoup moins. Et puis des femmes aussi. Donc en fait, on est beaucoup plus dans un texte moderne que rétrograde. Alors comme l'a dit Joël, ça s'enchaîne. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme. Comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée. Donc le mot chef, le mot tête, hein, mon couvre-chef, mon chapeau sur ma tête, et se pose la question, mais alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a de la supériorité, de l'infériorité? Bien sûr que non. Déjà, la vie, j'ai parlé tout à l'heure de mon chef, il n'y a pas de supériorité. Quelqu'un qui est au-dessus de moi dans l'entreprise, sur le plan de la valeur, il n'y a pas de différence. C'est une personne, et puis on le respecte, parce qu'il est placé au-dessus de moi, mais il n'y a pas du tout d'effet de valeur entre les personnes. Aucun rapport entre valeur intrinsèque, supériorité, infériorité, et le fait de se soumettre. Et ça, c'est démontré ou démontrable par le texte de 1 Corinthiens 11, où il est parlé du Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 3, je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, la tête de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Il n'y a pas d'infériorité entre le Seigneur et Dieu.
Femme, soyez soumise à vos propres maris comme au Seigneur en toutes choses. Ça vaut peut-être la peine de prendre ces trois éléments. D'abord, à vos propres maris. Il est faux de dire qu'une femme doit être soumise à tous les hommes. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années, on avait une sœur de notre église qui devait aller chercher à l'aéroport un frère qui venait du Moyen-Orient. Et parce qu'il y avait peut-être des problèmes de traduction, elle avait pris avec elle un frère qui était là pour quelque temps dans notre assemblée locale, qui était du même pays qu'elle, pays du Moyen-Orient. Et ce frère-là, il se trouvait dans la voiture de notre sœur, assis à côté sur le siège du passager, et il trépignait parce que pour lui, c'était impensable que, étant un homme, ce ne soit pas lui qui soit au volant, même s'il s'agissait de la voiture de la sœur, qu'elle avait tout à fait l'habitude de la conduire, qu'elle avait des années derrière elle, etc. Parce que la place de l'homme, c'était de conduire, de diriger. Donc on voit bien que
il n'est pas dit que toute femme se soumette à tout homme. Et ça, c'est très important. C'est que la femme doit se soumettre à son propre mari. Alors, il est difficile de savoir, peut-être que Gérard pourrait nous éclairer là-dessus, quelle était vraiment la place de la femme, parce que ça a changé au cours de l'histoire de l'Empire romain et aussi suivant les endroits. Mais enfin, à certains moments et à certains endroits, en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que l'autorité de la femme était finalement davantage plus celle du père que celle du mari, puisque le père avait le droit de demander le divorce pour sa fille, et même d'imposer le divorce à sa fille. Donc il y avait une autorité patriarcale qui était prédominante, de sorte qu'on peut même lire ce livre, ce verset-là, pour aller dans ton sens Frédéric, comme un verset aussi un peu libérateur qui met la place du couple à sa place créationnelle, où l'homme quittera son père et sa mère et sera attaché à sa femme. Et l'entité du couple prend le pas sur la précédente relation qui existait entre le père et ses enfants. Donc, la femme soumise à son propre mari. Et on voit bien que l'accent est mis sur propre femme, propre mari, qui souligne sans doute aussi l'unicité du lien et le fait que la pensée de Dieu, c'est le mariage monogame, où il y a un homme et une femme seulement, par rapport à la polygamie qui a pu avoir cours au cours de l'histoire. Deuxièmement, soit soumise comme au Seigneur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour les maris, il y aura comme à la forme renforcée, à l'exemple même du Seigneur, on pourrait traduire. Là, pour les femmes, c'est le comme, c'est une analogie, c'est la forme plus faible. Et je trouve que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, femmes, soyez soumises comme au Seigneur, il y a quand même une priorité. Nos femmes ont une relation avec Dieu qui passe avant, qui est primordiale par rapport à leur relation, par rapport à nous, leurs maris. De sorte que de ce point de vue-là, il y a une analogie dans leur soumission par rapport au Seigneur. Elles doivent être soumises à leur mari, mais il y a quand même une différence de degré. On n'est pas tout à fait sur le même plan. Mais comment montrer qu'elles sont soumises au Seigneur ? Eh bien, un des moyens tout naturels, c'est de se soumettre à leur mari, comme au Seigneur. Et la motivation nous est donnée, c'est effectivement cet ordre selon Dieu, où il y a Christ chef de l'Assemblée, Marie chef de la femme. On pense effectivement à toutes ces relations qu'on trouve en 1 Corinthiens 11. Et dernier point, le troisième que je voulais souligner, c'est la fin du verset 24, ainsi que les femmes, où Paul reprend à peu près la même idée, hein, que les femmes soient soumises à leur mari en toutes choses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut obéir à mon mari quoi qu'il me demande ? C'est sûr que, comme le disait Gérard, on a l'avantage ici d'être la plupart ou issus ou vivant des vies de couple entre un mari chrétien et une femme chrétienne, un mari qui aime le Seigneur, une femme qui aime le Seigneur, même si on a beaucoup d'imperfections dans nos vies personnelles et nos vies de couple, mais on a quand même un souhait de vivre cela positivement. Mais qu'en est-il quand le mari, et on connaît des gens dans nos entourages où le mari par exemple est opposé à la foi, que fait la femme ? Que fait la femme quand elle vit avec un mari qui ne l'aime pas ? Parce qu'il n'est pas dit « femme aimée à vos maris » quand ils sont bien chrétiens, quand ils sont bien gentils, quand ils vous aiment bien, etc. etc. L'ordre est absolu. Et 1 Pierre 3 va nous dire que par cela même, la femme pourra gagner son mari pour le Seigneur Jésus. Alors que faire ? Est-ce que c'est en toute chose ? On connaît la restriction qui est apportée par les apôtres en acte 5, verset 29. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sorte que parfois, une preuve de soumission à son mari sera paradoxalement de lui désobéir de la bonne manière. Alors, il ne faut pas non plus aller trop loin, et c'est bien pour ça que Paul est assez absolu, parce qu'on est tellement enclin à vite, vite chercher, saisir l'exception pour en faire la règle et se disculper de nos propres responsabilités, tant les hommes que les femmes d'ailleurs, qu'il le met de façon un peu absolue. Mais néanmoins, on a des exemples. On a par exemple le bel exemple d'Abigaïl en 1 Samuel 25, elle aussi ne devait pas être drôle tous les jours dans sa relation de couple. Et elle prend une initiative qui n'est pas vraiment dans l'état d'esprit que son mari avait manifesté envers David, mais finalement pour le bien de son mari. Et de ce fait-là, ce n'est pas une insubordination qu'elle montre, c'est une façon de se soumettre pour éviter qu'un mal plus grand arrive et que David arrive et puis tue son mari directement, puisqu'elle a épargné sa vie par cette action pacificatrice qu'elle a eue envers David. Voilà. Donc, en toute chose, oui, avec cette restriction-là, que Paul ne donne pas explicitement ici, mais qui est vrai dans toute l'Écriture, qui fait que notre relation avec Dieu va primer dans les cas extrêmes sur notre relation, y compris notre relation conjugale.
c'est à peine besoin de le dire, mais il faut faire attention aussi à ce que ne dit pas la parole. Il n'est pas dit « Marie, soumettez vos femmes ». Non. Il est dit aux femmes « Soumettez-vous ». Et comme tu l'as dit, c'est un handicap puisque c'est toujours les hommes qui présentent la chose. Mais en fait, c'est la femme, c'est l'épouse. C'est à l'épouse que Dieu parle. C'est pas à nous. Et c'est pas nous qui devons soumettre. Mais cette soumission, cette pensée de la soumission, c'est on n'arrive pas à se sortir de la tête qu'elle a une connotation négative. On n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi ? Mais parce que l'histoire a inscrit des choses tragiques dans ce domaine. Et encore aujourd'hui, des hommes soumettent les femmes. Et la femme moderne s'en souvient de ça, parce que c'est inscrit dans l'histoire, et encore aujourd'hui. Mais là, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à chacun. Il faut que chacun reçoive son message. Ça me fait penser aussi à peut-être qu'il nous faut avoir du discernement, et certainement. Dans notre région, il y a quelques années, il y a une jeune femme qui allait se marier, et elle a dit aux frères qui devaient présenter la parole à leur mariage, elle a simplement dit, pour notre mariage, pas Éphésiens 5. Bon. Ça a l'air de la rébellion, mais c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. On a tout de suite jugé hâtivement des choses, mais il faut voir le contexte. Bon, je me souviens plus, mais mettons qu'elle soit infirmière. Autrefois, dans la génération de nos parents, et même quand nous nous sommes mariés, les mariages étaient à huis clos, dans les familles, dans les maisons. Maintenant, dans notre région, vous avez facilement, si c'est en période d'été, vous avez 500 à 600 personnes. Bon. Alors, ça rassemble toutes sortes de personnes. Il y a peut-être la moitié d'inconvertis. Et je comprends cette infirmière qui disait ça, parce que, du moins, j'essaie de la comprendre. Il y avait tous ses collègues de travail, des médecins, c'est l'infirmière-chef, tout. Ils étaient tous là, mettons. Et le frère en question qui présente la parole lit dans Éphésiens 5, le mari est le chef de la femme. Pauvres gens, sont revenus au Moyen-Âge. C'est peut-être pas forcément le meilleur message si la moitié est inconvertie. Non, pas forcément. Une préparation à l'évangile. Ce passage, cette expression-là, bien sûr qu'elle a un sens, mais elle est dite pour qui, là ? Pour les chrétiens, pas pour les inconvertis. Ils ne sont pas forcément capables de comprendre ça. Alors peut-être que, bon, je laisse à chaque frère le discernement, bien sûr, des situations, mais il est dit dans l'Évangile que le Seigneur présentait la parole selon que chacun pouvait entendre. Alors c'est sûr qu'on doit faire attention à l'auditoire qu'on a devant soi. Paul parlait à des chrétiens, là. Ce paragraphe, ce sont des secrets pour les croyants. C'est pour l'intérieur. Alors, c'est vrai qu'il nous faut du discernement. Et puis là, on a des absolus. Alors, quand il est dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris, pensez-vous qu'il y a un peu de servitude là-dedans ? Non, c'est pas possible, puisque il est dit que comme l'Église est soumise au Christ, y a-t-il un élément de servitude dans cette soumission de l'Église à Christ ? Non, c'est pas possible. Et entre mari, c'est pas possible qu'il y en ait s'il aime comme Christ. Ah, s'il aime comme Christ. Voilà notre problème. Aimer comme Christ. Le problème est peut-être bien du côté des maris et pas des épouses. Parce qu'une épouse, je dirais, se soumettrait volontiers, avec plaisir, à un homme qui aime comme Christ. Oh oui, elle se soumet très volontiers. Mais où il est? Où est-il, ce mari-là? Nous devons avouer, nous devons confesser, et je pense que mes frères sont d'accord avec ça, nous devons confesser publiquement que nous n'aimons pas nos épouses comme Christ. Parce que ça, c'est un amour agapé, c'est un amour, et on va le voir, sacrificiel, qui se sacrifie. L'amour, on l'a dit quelquefois, c'est pas l'opposé de la haine, c'est l'opposé de l'égoïsme. On en parle peut-être moins de l'égoïsme, on parle plus de l'orgueil que de l'égoïsme. Mais ça, c'est quelque chose qui est chevillé à notre chair. L'égoïsme. Et si nous n'étions pas égoïstes, les hommes, eh bien, nos femmes se soumettraient merveilleusement. Mais le modèle est placé devant nous, comme Christ. La barre est très haute. Bien sûr, ça nous humilie. Nous ne sommes pas fiers devant un modèle pareil, mais comme je le disais ce matin, on doit faire des progrès, pas des bons, des progrès. Un peu ici, un peu là.
Peut-être faire un point, comme cela a été demandé. Notre ami nous a dit qu'il y avait la moitié des gens qui allaient s'exprimer, les hommes, encore, ce n'est pas le cas. Et il y aurait l'autre moitié, je rajouterais, c'est l'autre moitié sûrement la plus spirituelle, qui ne dit rien. Ce n'est pas de la fausse démagogie. Quand on voit les femmes autour du Seigneur, on a à peu près une idée de la spiritualité de ces femmes. Sur le plan historique, simplement, il faut bien dissocier la société grecque de la société romaine. Là, nous sommes dans un contexte hellénistique. La femme ne comptait pas. Tu l'as souligné, mais on pourrait encore amplifier. Le fait que Paul s'adresse aux femmes a quelque chose de proprement révolutionnaire. Comment fonctionnait la société grecque traditionnelle? L'épouse était la génitrice. Elle devait assurer la progéniture. Et les mariages étaient des arrangements familiaux, essentiellement en vue de maintenir l'héritage. L'homme, lui, il avait des courtisanes pour répondre à ses besoins affectifs. À Rome, il en était très différemment. Nous avions des codes de famille assez curieusement très proches de cette éthique chrétienne, où la soumission de la femme, malgré tout la matrone romaine, était toujours mentionnée. La femme devait être soumise à son mari. Ça fait partie de cette morale naturelle dont l'apôtre Paul fait souvent allusion, qui est un principe de base de conservatisme social. Quand on mélange tout, ça ne donne plus rien de bon, nous le voyons hélas dans nos pays à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est que concernant cette notion de soumission, on constate, c'est toujours dans les idées générales, que la femme, ici, est associée à l'Église, à nous, en tant que chrétiens. Paul commence toujours par ça. Même chose pour les enfants, on pourrait faire cette remarque. Et cette soumission, nous en avons parlé, on pourrait dire ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Je voudrais simplement m'adresser aux jeunes époux. Je suis très mal placé pour le faire, parce que bon, j'ai déjà un certain âge. Il y a beaucoup de bon sens dans cette idée de soumission ou de respect, grand respect, et de bon sens psychologique. Souvent, lorsqu'il y a un mariage, il y a une différence de maturité entre la jeune épouse et son époux. On sait très bien qu'un garçon de 25 ans, par exemple, c'est un grand ado la plupart du temps. Son épouse a beaucoup plus de maturité, en termes généraux. Et le rôle de son épouse va être de laisser la place à son mari, parce qu'il est la tête. Et là, l'image théologique est très intéressante. Un corps à deux têtes, c'est un monstre. On ne veut pas de monstre. Le rôle de l'épouse, de la jeune épouse, va être de laisser toute la place à son mari et de l'aider à sa façon à grandir, à devenir un homme fait, un homme mature, ce qui n'est pas souvent le cas si les jeunes se marient autour de cet âge-là. Mais un jour viendra où, avec l'évolution, le développement, avec le Seigneur, il deviendra alors un homme fait selon Éphésiens. Alors son rôle est cela, surtout pas de prendre la place qui n'est pas la sienne. C'est très important. Elle doit l'aider en cela, à assumer ses propres responsabilités, chose qu'il ne va pas faire peut-être d'une façon naturelle. Et puis, autre chose que je voulais dire également, c'est que nous avons cette image. On ne peut pas dissocier ces enseignements si on n'associe pas avec l'Église. Ça devient incompréhensible. C'est pour ça que ce discours, dans la société civile, les mouvements féministes, ils n'y comprennent strictement rien. Ils ne peuvent pas les comprendre. Le mariage est vu, là, comme étant l'époux et l'épouse. C'est-à-dire Christ et son assemblée. Si on perd de vue cette clé, nous passons complètement à côté. Alors, c'est des choses à la fois très pratiques et très élevées, très spirituelles. Parce que, vis-à-vis de ces gens, ces Grecs devenus chrétiens, Paul va anoblir considérablement le lien du mariage. Chose que tous les codes romains, aussi bons soient-ils, ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire, il va leur dire, mais vous allez vivre et réaliser ce mystère infini qui est celui de l'amour de l'époux pour son épouse. Vous allez pouvoir le réaliser. Et ça va à la fois ennoblir considérablement les liens conjugaux, si nous les voyons sous cet angle. Et non seulement il y a des préoccupations pratiques, peut-être, mais aussi théologiques, spirituelles, d'une dimension extrêmement élevée.
Peut-être que pour bien comprendre, ça vaut la peine de prendre les différentes expressions qui nous sont données dans ce texte par rapport à Christ, et commencer par lui pour avoir un modèle pour nous les hommes. Nous le trouvons dans trois parties de ces versets 22 à 33. La première, c'est au verset 23. Le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Deuxième, c'est le développement des versets 25 à 27. Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin qu'il se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Et la troisième, c'est au verset 29, je commence la lecture, « Mais il la nourrit, il la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Donc ça vaut la peine déjà de se poser quelques secondes pour oublier ce qui est le sujet pourtant principal, qui est l'homme et la femme. Comme tu le disais très justement, Lucien, la présentation de Christ, elle est à la fois incidente et importante, mais d'oublier le sujet principal, mari-femme, pour penser aux relations entre Christ et l'Église. Donc Christ qui est le chef de l'Assemblée. Ça nous avait déjà été dit à la fin du chapitre 1, c'est relativement clair, puisque il est à la tête et l'Assemblée tire son origine, puisqu'il y a tout un débat, vous savez, sur si chef signifie autorité ou signifie source. Mais pour Christ, que l'un et l'autre sont tout aussi vrais, donc le débat est clos par rapport à ce qui le concerne. Lui, le sauveur du corps, et c'est vrai que c'est lui qui est le sauveur du corps dans les deux sens, c'est-à-dire sauveur de son corps qui est formé aujourd'hui de l'ensemble des chrétiens, qui sont sauvés par le salut qu'il nous a offert à la croix, par son œuvre à la croix, et aussi qui va être ultimement le sauveur de nos corps quand le salut qui a été mis en œuvre aura son accomplissement final dans nos corps de résurrection. Et on voit que ce texte est un des textes de l'Épître aux Éphésiens où on a le plus en vue l'eschatologie, la fin des choses, en particulier avec le verset 27. Dans la deuxième mention, le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. On aime cette mention de ce « a aimé » qui nous fait penser à ce projet que le Seigneur Jésus avait bien avant que l'Assemblée soit constituée, puisque formellement elle ne le fut qu'en acte 2, le jour de la Pentecôte, et on pense à cette joie qui était devant lui. Peut-être même on peut en trouver des réminiscences quand il était dit en Proverbe 8 que son plaisir était dans les fils des hommes, peut-être. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré lui-même pour elle, donc ce livré qu'on a déjà trouvé au verset 2, qu'on retrouve ici, sous un angle plus collectif, en tout cas plus corporatif. Et maintenant, aujourd'hui, après cet acte passé, il y a un acte présent de sanctification, de purification, avant qu'il y ait un acte futur, verset 27, de se présenter l'Assemblée à lui-même, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Donc, l'œuvre du Seigneur par rapport à son Église dans le passé, il s'est livré lui-même pour elle, une œuvre de rédemption, une œuvre de sanctification dans le présent, la sanctifiant, la purifiant par le lavage d'eau par la parole, et une œuvre de présentation dans le futur, selon la scène qui nous sera décrite sous un autre angle en Apocalypse 19, avec ses noces de l'agneau. Une petite parenthèse rapide sur la fin du verset 26, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Cette sanctification progressive que le Seigneur opère pour nous, elle se fait par l'eau et par la parole. Alors, ce n'est pas très facile de savoir ce que là, Paul veut dire par l'eau. Parce que, est-ce qu'il s'agit d'un indiadis où l'eau, c'est-à-dire la parole, figure de style qui est employée assez souvent d'ailleurs dans l'écriture, ou est-ce qu'il s'agit de deux choses, ou est-ce que c'est la parole qui nous régénère? Peut-être que le plus simple, c'est de prendre le texte de Paul le plus proche, c'est en Tite 3, sauf erreur, où on trouve aussi ce lavage avec ce bain. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes en justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération, je traduis littéralement, et le renouvellement de l'Esprit Saint. Et donc là, dans ce passage, Paul met en parallèle le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, de sorte que, en continuant l'image qui avait été prise en Jean 7, versets 37 et 39, peut-être on peut voir derrière cette eau, cette action de l'Esprit de Dieu, qui est intimement lié à l'action de la parole, par parole, et qui fait que, par son esprit et par sa parole, le Seigneur œuvre dans l'Église de façon à la purifier progressivement. Est-ce que ça marche totalement aujourd'hui? Non. Des rides, des taches, plus qu'une jeune épousée, l'Église, elle ressemble parfois à une vieille dame fort ridée. Mais néanmoins, le Seigneur travaille pour qu'un jour, le résultat soit produit. Et là, nous, on épouse des femmes jeunes qui ensuite se rident. Le Seigneur, c'est un peu l'inverse. Actuellement, elle est ridée. Demain, elle sera totalement belle. La troisième image, au verset 29 et 30, on voit ce Christ qui nourrit et qui chérit l'assemblée avec ses connotations de nourrir, d'apporter tout ce qui est nécessaire au bien-être. Ça va bien au-delà, le terme va bien au-delà de la nourriture proprement dite. Hein. C'est tout ce qu'on apporte pour prendre soin, et chérir avec cette idée de réchauffer, de rallumer le feu, de faire flamber. Et c'est ce que fait le Seigneur pour l'Église quand il nous réchauffe, comme il le fait ici. Alors, si maintenant on fait le parallèle avec nous, les maris, sur ces trois aspects-là, le premier, quand on voit le Seigneur qui est le sauveur du corps, eh bien, on a à concevoir notre rôle de mari comme un protecteur du corps de notre femme. De ce point de vue-là, notre rôle en tant que chef du couple, il est challenging, il est important, et c'est difficile de le réaliser, parce qu'on est là pour sauver le corps de notre femme, on est là pour la protéger, on est son bodyguard. C'est notre rôle. C'est notre rôle, et ça va à l'encontre de notre égoïsme foncier. Deuxièmement aussi, si on prend le deuxième texte, je laisserai après chacun pour ajouter, mais Christ a aimé l'assemblée, ce verbe au passé. Ça aussi c'est important. Pourquoi dans le livre des Proverbes et dans l'Ecclésiaste, il est dit « Souviens-toi de la biche de ta jeunesse, de la femme de ta jeunesse, Malachie 2, etc. » Pourquoi? Parce que nous on est attirés par, peut-être que plus par des femmes plus jeunes. Oh non, tu l'as aimé, et souviens-toi, comment tu étais amoureux. Et ça aussi, tu dois te le rappeler. Tu l'as aimé, et reste fidèle. C'est le sens de Malachie 2. Reste fidèle à cet amour, à cette alliance d'amour que tu as faite dès le départ. Tu l'as aimée, c'est celle-là. Et qu'elle soit toujours chevrette de tes amours, bichette pleine de grâce, comme le dit très poétiquement le livre poétique. Et ensuite, il s'est livré lui-même pour elle. Alors on a déjà parlé de cet amour qui est aspect don, de se livrer soi-même. Alors ça implique livrer son corps, de façon très concrète dans les relations intimes. Paul va en parler en 1 Corinthiens 7, en donnant d'ailleurs une réciprocité qui est d'une modernité inouïe. Et aussi, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin de se présenter à l'Assemblée. Donc nous, on ne va pas se présenter notre épouse dans le ciel. Le mariage est pour la terre, ce qui d'ailleurs en renforce le sérieux, parce qu'on ne pourra pas rattraper les choses au ciel. Mais sur la terre, ce qui est important, c'est de viser le bien et le développement de notre épouse. Que fait Christ vis-à-vis de son Église? Il cherche son perfectionnement, le fait qu'elle grandisse, qu'elle s'améliore. Alors je suis bien d'accord avec Gérard que la maturité au début est sans doute inversée, mais Est-ce qu'en tant que mari chrétien, on a cette idée de valoriser notre femme, de la faire grandir, de permettre que dans le couple, il y ait un épanouissement de sa féminité dans toutes ses dimensions, de façon à ce qu'elle puisse être resplendissante? Je crois qu'on ne peut pas faire un plus beau plaisir, un plus beau compliment à un mari de dire qu'il rend son épouse épanouie. Alors, on voit bien que de ce point de vue-là, notre amour, comme il va se montrer, ça ne va pas être un amour qui va chercher à prendre, mais un amour qui va chercher à donner, qui va chercher à faire grandir. Alors ça peut passer par des choses très concrètes, mais ça passe surtout par cet état d'esprit de dire « je vais faire grandir ma femme, je vais permettre que toutes ses potentialités se développent parce que je lui donnerai un cadre sécurisé ». C'est ce qu'on avait vu le premier point. Et le troisième point, tout cela pour faire grandir, comment on le fait? Eh bien on le fait en procurant ce nourrissement et ce chérissement, c'est-à-dire cette atmosphère de bien-être et de chaleur, d'affection que nous avons à prodiguer. Alors, ça c'est difficile, pourquoi? Parce que le naturel masculin, il est plutôt porté à l'action que plutôt porté aux relations et aux sentiments, donc on a parfois à forcer un peu les choses, à forcer un peu notre naturel, mais c'est ce que l'exemple que le Seigneur nous donne, justement, de forcer un peu notre naturel égoïste et qui reste sur son quant à soi, qui n'a pas trop envie parfois de parler ou de communiquer, etc., pour procurer cette atmosphère chaleureuse. Et on sait quels sont le contexte indispensable pour des relations intimes qui soient vécues harmonieusement dans le couple. Et c'est bien pour cela, sans doute, que Paul enchaîne tout de suite avec cet aspect-là. Mais c'est très important aussi qu'on procure cet aspect-là. Il me semble donc que sur ces trois volets, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Et comme disait Lucien, on est loin, loin du compte.
Donc, ce qui est remarquable dans ce passage, dans tout ce passage, c'est que le divin époux fait tout. Il est ce modèle du mari, mais il fait tout ici. Tout à fait remarquable. Alors, c'est l'homme qui prend l'initiative, l'homme Christ Jésus. C'est vraiment le chemin de l'homme vers la jeune fille, de l'homme avec un H majuscule. Il fait tout, il se livre, et c'est la racine de tout, c'est l'amour, mais il se livre, il la sanctifie, il la nourrit, il la chérit, et il va se la présenter. Il fait tout. Et en face, à cette femme qui est l'Église, il n'est demandé qu'une chose, c'est de se soumettre. Tout à fait remarquable. Il n'est pas dit que l'Église doit le servir, que l'Église doit l'adorer, que l'Église doit l'attendre. Non, 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 ça c'est ailleurs. Mais une seule chose est demandée à l'Église, qu'elle se soumette. Mais le mari fait tout. Alors Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Ailleurs, il est dit, Christ est donné pour nos péchés. Mais si on introduit les péchés ici, ou l'expiation, je crois qu'on n'a pas compris le vrai sens du passage. C'est juste, bien sûr, que Christ est mort pour nos péchés, comme le dit l'apôtre Pierre. Mais c'est pas le sens du passage, c'est pas ce qui est présenté ici. Alors qu'est-ce qui est présenté ici? Bien, nous avons besoin des figures de l'Ancien Testament pour pénétrer un petit peu plus profondément dans ce que l'Esprit de Dieu veut nous présenter. Est-ce qu'Adam et Ève donnent une figure, même si Genèse 2 est cité ici? Je crois pas. Parce que dans Genèse 2, tout est le fait de Dieu. C'est Dieu qui voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu qui fait tomber un profond sommeil sur Adam, c'est Dieu qui bâtit une femme, c'est Dieu qui apporte la femme à l'homme. C'est Dieu qui fait tout en Genèse. Ici, c'est pas ça. C'est le Seigneur qui fait tout. Le mari divin qui fait tout. Alors, quelle figure de l'Ancien Testament pourrait nous aider? J'en vois deux. Et la première qui m'est particulièrement chère, c'est Jacob. Jacob, dans une après un voyage pénible, où il fuit la colère de son frère, il arrive à Padan-Aram, qu'est-ce qu'il voit près du puits? Ah, Rachel. C'est l'éblouissement, une jeune fille. Elle est si belle, elle est si gentille. Et cet homme fera tout pour avoir cette femme. Il fera tout. Il va souffrir. Et je relis dans un autre état d'esprit, du moins, pas opposé, mais dans une autre optique, comment cet homme en figure va souffrir et se livrer. J'aime à penser que Jacob, malgré tous ses errements, il est une image du Seigneur quand il peut dire, après à Laban, son beau-père, tes brebis et tes chèvres, quand elles ont avorté, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé des béliers de ton troupeau, c'est-à-dire je n'ai pas profité, moi, à ton insu, à ton détriment. Ce qui a été déchiré, je ne te l'ai pas rapporté, mais c'est moi qui en ai souffert la perte. Et tu as redemandé de ma main ce qui m'avait été volé de jour et de ce qui m'avait été volé de nuit. Et comment il a souffert cet homme. Et j'en étais là, que de jour la sécheresse me dévorait, de nuit la gelée, et mon sommeil fuyait mes yeux. Tout ça, toute cette souffrance, pendant 14 ans pour une femme. Parce qu'il voulait l'avoir. L'avoir et l'avoir. Et c'est une image émouvante. Et quand Rachel devait voir cet homme qui peinait pendant tant d'années, qui souffrait, vous croyez qu'elle ne devait pas être bouleversée de voir cet homme-là? Et comment cette femme n'aurait-elle pas été soumise à un homme qu'il aimait pareillement? Et nous avons cette magnifique parole que nous connaissons bien. Cela fut peu de jours parce qu'il l'aimait. Voyez même l'amour humain. Je ne spécifierai pas quels étaient les trois amours. Je voudrais penser qu'ils étaient imbriqués, Eros, Philéo et Agapé, là, dans ce cas-là. Mais l'amour humain, pour une femme, pour avoir, je voudrais que ça continue après, dans le mariage, mais pour avoir l'objet de l'amour aimé, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Mais c'est cet amour dont il est dit dans le Cantique des Cantiques qui va jusqu'à la mort, bien sûr, qui est fort comme la mort. Bien sûr, on applique ce verset au Seigneur et on a raison, mais dans le contexte du Cantique des Cantiques, mais c'est l'amour d'un jeune homme pour une jeune fille. Et n'a-t-on pas vu des jeunes gens privés de leur amour, de l'objet de leur amour, ou l'objet de leur amour disparaît? C'est pas la peine de vivre. Autant que je disparaisse, moi aussi. Eh bien, Jacob travaille, souffre pour Rachel. Et 10 siècles après, le prophète Osée s'en souviendra. Il dira, Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda leur troupeau. Et je crois que c'est le modèle. Alors, l'autre exemple, c'est dans Exode 21, c'est pas tellement une histoire, c'est plutôt une ordonnance. Le serviteur hébreu, alors dans un premier temps, il est dit, le serviteur, il a servi pendant 6 années, il peut sortir libre. Mais il est ajouté, si son maître lui a donné une femme, ça c'est Genèse 2. Il dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Donc cet homme accepte pour cela, pour garder sa femme, pour rester près de sa femme qu'il aime, il accepte de venir près du poteau et d'avoir l'oreille percée. Cet homme, il avait le choix entre sa femme et la liberté. Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait quand il, à la fin de son ministère. Il avait le choix, respectueusement dit, entre la liberté de retourner au ciel et l'Église. Et il a choisi de passer par la mort, de se livrer pour avoir cette femme, et non pas pour ses péchés, ça c'est un autre aspect, pour avoir cette femme. Et vous croyez que cette femme ne devait pas être bouleversée, touchée profondément quand elle a vu son mari qui la choisissait à la liberté? Comment cette femme ne serait-elle pas soumise à un homme qui l'a aimée aussi comme ça, qui a manifesté? Et alors qu'il se promenait dans la maison, elle voyait son oreille trouée, elle dit, ah mais cet homme il m'a aimé. Et quand nous voyons le Seigneur donnant sa vie sur la croix, nous devrions être, l'Église qui est cette femme devrait être bouleversée aussi. Nous devrions être bouleversés, touchés profondément dans nos entrailles. Voilà un homme qui nous a tellement aimés. Et nous ne nous soumettrions pas à cet homme, avec un H majuscule, D'ailleurs, on a un absolu ici. Il n'est pas dit que l'Église doit être soumise. Il est dit qu'elle est soumise. C'est ces absolus, comme dans Jean, qui nous bousculent un peu, mais ils sont là. Le Seigneur Jésus s'est livré pour avoir cette femme, à cause de la beauté de l'Église. Alors, oui, mais vous me direz, mais comment le Seigneur voyait cette beauté à l'avance? Mais je crois qu'il la voyait dans les disciples, dans son ministère, déjà avant la croix. Et il en donne aussi des figures quand il parle de la perle, enfin du trésor, c'est plutôt Israël. Mais la perle, c'est le marchand qui voit une belle perle et qui vend tout ce qu'il a et qui l'achète. Voilà, c'est aussi Éphésiens 5. C'est-à-dire qu'il voyait à l'avance la beauté de l'Église et il la voulait pour lui. Et il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter. Alors, où est-ce qu'on voit cette beauté dans les disciples? Eh bien, par exemple, en Jean 17. Jean 17, il n'y a pas un reproche qui est fait aux disciples. Ils ont cru, ils ont vraiment connu que tu m'as envoyé. Et je suis glorifié en eux. Voyez comment le Seigneur voit la beauté de cette femme et il la veut pour lui. Il nous voulait pour lui, alors il s'est livré. Comment ne serions-nous pas soumis à ce chef qui nous a tant aimés?
Il y a un mot qui revient souvent. Et si on le relit, verset 25, Marie, aimez votre propre femme. Verset 28, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Et 33, que chacun en particulier aime sa propre femme. Nous étions ensemble il y a 21 ans avec Philippe et peut-être Jean-Luc à la conférence de Zurich et on étudiait ce sujet. Et un frère de 80 ans s'est levé et il nous a dit « sa propre femme, pas celle d'un autre ». Puis après il a lu Proverbe 31. Proverbe 31, verset 28, sur cette femme, ses fils se lèvent et la disent bienheureux, son mari aussi, et il la loue. Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. Bien sûr, c'est subjectif, mais c'est sa propre femme. C'est subjectif, mais combien c'est beau. Spécialement après 50 ans de mariage et ce frère de 80 ans s'est rassis. Eh bien, ça m'est resté après 21 ans.
Alors avec ce que vient d'exprimer Lucien, on pourrait se demander s'il y a quand même dans ce passage une relation entre la fin de Genèse 2 et puis ce passage-là. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Mais dites-moi, on voit Christ, et on a bien insisté, faire tout pour elle. Il n'opère pas une œuvre partielle. Il accomplit quelque chose de total qui aboutit à quelque chose de parfait. Quand je lis en 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont faites nouvelles, elles sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Et quand il est question dans les épîtres de Jean, premier épître d'une manière particulière, des absolus qui situent la situation en Christ du converti, alors on remarque absolument, on entend absolument le Seigneur nous dire très fort, voilà celle dont je voulais parler. Une œuvre de Dieu parfaite, totale, qu'on découvre dans le livre de la Genèse, et la réalité là, avec tout ce qui a été exprimé pour nous dire, alors maintenant, s'il vous plaît, écoutez bien. En Christ, l'Église tirée de Christ, une réalité qui est dans la pensée de Dieu, et s'il vous plaît, tout ce dont on peut discuter sur le plan humain, tout ce qu'on peut essayer de décrire avec les mots les plus beaux, avec les pensées les plus belles, avec les morales les plus saines, c'est d'un domaine. Mais dans la vie, en Christ, c'est un autre domaine. Et nous touchons alors une autre pensée très forte dans la parole de Dieu, celle de réaliser notre position pour vivre la vie et non un mélange de vie et de mort, c'est-à-dire ce qui est en Christ véritablement, la vie, et pas ce qui est dans l'homme naturel avec tout ce qu'il peut avoir de beau. On entre dans un autre domaine, on est là dans le corps, donc il ne faut pas renier ce qui reste jusqu'à ce qu'on en ait fini avec cette situation. Mais il faut embrasser la réalité que nous sommes invités à contempler là, et nous nous inclinons devant la richesse, la profondeur, la puissance et l'efficace de l'œuvre de Dieu en Christ. C'est merveilleusement beau, et c'est vrai que les deux textes, les deux images que tu as citées sont très fortes et collent à cette portion-là, mais on trouve ici en même temps le lien. En somme, on lâche un petit peu ce qui pourrait être mélangé pour entrer dans une réalité pleine, la pensée de Dieu en Christ. Mais on a besoin de tout ça, absolument de tout ça, parce que l'image de celui qui fait tout, qui donne tout, qui abandonne, qui souffre pendant tant d'années, qui laisse tout un tas de choses, qui accepte d'endurer parce qu'il ne peut pas s'en passer, pas de bonheur pour lui, pas de réalité, là, sans cette souffrance volontaire. Et je vois bien en Christ cette souffrance volontaire. Et quant au terme de son travail, il se présente l'assemblée à lui-même. On comprend bien que ses souffrances en valaient la peine, profonde. On ne peut pas les décrire, elles en valaient la peine. Et quand à travers ces réalités-là, on voit la pensée de Dieu pour l'homme et la femme, c'est vrai, comme tu disais Lucien, on se sent un peu loin, honteux, mais en même temps, on l'a exprimé ce matin, on sent cette invitation de Dieu qui nous dit « Allez, laisse, je te prends par la main et je vais te porter là. Veux-tu te laisser porter pour entrer dans cette réalité ?» Ça, c'est la vie. C'est la saveur de la vie. C'est quelque chose de magnifique.
Et on comprend pourquoi il y a ce verset 32 qui m'a longtemps paru un peu mystérieux. Et d'ailleurs, il est dit comme cela, ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Le propos principal de Paul dans ces versets 22 à 33, c'est de parler des relations dans le cadre du couple. Alors, on a toutes ces comparaisons, comme, sous toutes ces analogies. Et puis, Paul, au verset 32, après avoir cité le verset 31, qui est le verset fondateur du mariage, avec ce trépied en trois parties, l'homme laissera son père et sa mère 1, sera joint à sa femme 2, les deux seront une chair 3, l'acte officiel, laisser son père et sa mère, l'acte affectif et l'acte sexuel, les trois formant le trépied indissoluble du mariage, eh bien Paul enchaîne en disant « ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée ». Ah, voilà qui est un peu surprenant. Nous justement, on croyait que ce verset, il parlait du mariage d'un homme et d'une femme. Et d'ailleurs, c'est bien comme cela que d'autres textes l'avaient compris, puisque quand le Seigneur lui-même cite ce texte en Matthieu 19, verset au début du chapitre, et où quand Paul le cite en 1 Corinthiens 6, c'est bien directement pour l'appliquer d'entrée de jeu au mariage tel qu'il est entre deux êtres humains. Et le Seigneur ne dit pas, mais attention, il aurait pu le faire en Matthieu 19, il venait de parler de l'Église au chapitre 16 au verset 18. Il ne dit pas, attention, le sujet c'est Christ, c'est moi et l'Église et l'Assemblée. Non, il parle bien de cela par rapport aux relations humaines. Mais là, Paul semble envoyer ce texte dans une autre dimension. Pourquoi ? C'est parce que, comme on l'a déjà dit, le mariage est relatif à la terre, le mariage entre un homme et une femme. dans le ciel, on n'est pas donné en mariage et on ne se donne pas en mariage. Ces choses ont pris fin. Et par contre, subsiste pour l'éternité cette relation qui, pour nous la faire comprendre, est décrite dans les termes les plus intimes qu'on peut vivre sur la terre, qui est la relation que Dieu a permis entre l'homme et la femme, le vis-à-vis, l'aide indispensable qui devait être créée pour lui. Mais la réalité ultime, elle est dans le ciel et elle est dans cette union que Christ veut avoir avec ses rachetés de la façon la plus indissoluble. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la réalité, notre couple humain, et puis une image qui est Christ et l'Assemblée, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il est dit, ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Parce que ce qu'on pourra vivre sur la terre, et c'est ce que Jacques vient de dire, et ce qu'on voyait dans les exemples cités par Lucien, de toute façon, ce ne seront que des pâles esquisses de ce qui est cette relation éternelle, d'une intimité telle qu'il n'y a que le mariage sur la terre pour nous permettre de la percevoir, d'une intimité telle entre un sauveur et ses rachetés vus collectivement sous cette forme d'église, cette forme d'épouse, dans cette analogie qui nous est donnée ici et qui est relativement peu fréquente dans le Nouveau Testament, puisqu'on trouve 2 Corinthiens 11, par exemple, le fiancé comme une vierge chaste. Il faut ensuite aller à l'Apocalypse, au chapitre 13 pour, 19, pour trouver les noces de l'agneau. Il n'y a pas beaucoup de mentions, autant l'image du corps est présente dans de nombreux textes du Nouveau Testament, autant celle de l'épouse est relativement faible, faiblement représentée. Donc, c'est comme si c'était pour dire, c'est quand même des choses qui ne sont pas très faciles à comprendre. Parce que le mystère, c'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui est caché, qui ne peut être compris que par une révélation particulière de Dieu. C'est ça le mystère, au sens néo-testamentaire du terme. Et donc, ce mystère-là, c'est que Paul parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Et ce mystère est grand, comme le mystère de la piété en 1 Timothée 3, verset 16. Parce que c'est un grand mystère, le fait que le Seigneur veuille être uni à ses rachetés aussi fortement, aussi étroitement. Mais encore une fois, Paul, il redescend très vite sur terre. Et c'est pour cela que, voyez la structure du texte, verset 25, « Marie, aimez vos propres femmes », ensuite un long développement sur Christ et l'Assemblée. Mais au verset 28, on revient tout de suite, « De même aussi, les maris doivent aimer leurs propres femmes ». Et oh, n'oubliez pas, il faut l'appliquer tout de suite. Et ensuite, on remonte au verset 29, 30 et 31. Il a nourri la chérie comme aussi Christ l'Assemblée, nous sommes membres de son corps, etc. Et puis, de nouveau, on redescend tout de suite au verset 33. Toutefois, que chacun de vous en particulier aime sa propre femme. Ne vous réfugiez pas dans les idées magnifiques et les pensées merveilleuses de Christ et de l'Église, de la consommation de tous les saints dans l'unité et dans la charité dans le ciel, mais appliquez ici et maintenant cela en essayant de refléter petitement dans votre vie, dans votre mariage chrétien, ce qui sera vrai ultimement et pleinement dans cette union entre Christ et son épouse. Et c'est ce qui rend au mariage chrétien une dimension que n'a pas le mariage en général. Parce que l'institution du mariage du verset 31, citation de Genèse 2:24, c'est l'institution du mariage qui est valable pour tout, partout, dans tout le monde. Et toutes les sociétés ont une forme ou l'autre de mariage. Mais la dimension supplémentaire du mariage chrétien, c'est qu'on peut faire intervenir cette dimension et la vivre. Parce que, ultimement, c'est comme cela que nous sommes appelés à la vivre. Toutefois que chacun de vous, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même, et on sait comment on aime sa propre vieille peau, et quant à la femme, qu'elle respecte son mari, encore là, et juste une pensée pour ma part, pour terminer, c'est Corbyn qui nous disait, vous savez, vous les sœurs, vous avez le privilège de pouvoir imiter le Seigneur Jésus qui s'est soumis à son Père. Vous avez le privilège de pouvoir imiter l'Assemblée qui se soumet à Christ. Vous avez un double privilège. Nous les hommes, on n'en a qu'un.
Courtement une pensée sur c'est parce que c'est d'une importance capitale ce que le Seigneur fait actuellement. Et nous espérons qu'il l'a fait dans cette journée. Il sanctifie l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans un monde souillé. Nous l'avons vu précédemment. Peut-être c'était l'aspect particulier que le Seigneur a fait ce matin. Il nous a sanctifiés. Et ensuite, il nourrit parce que l'Église a besoin de force. elle a besoin, parce qu'elle elle doit servir dans le monde, elle doit rendre témoignage, elle doit aller de l'avant, donc elle a besoin de nourriture, mais c'est lui qui le fait. Et il la chérit, littéralement tenir au chaud, mais encourager, fortifier, consoler, parce que nous sommes, cette femme, cette église, elle est dans un monde de souffrance et de deuil. Alors le Seigneur sanctifie, nourrit et chérit. Comment le fait-il? Très probablement au travers des dons, comme dans cette journée. Mais les dons, c'est le chapitre 4. Ils sont absents au chapitre 5. C'est lui qui fait tout. Ils sont, je dirais qu'ils sont présents mais invisibles. Et les dons sont présents et invisibles quand? Quand à la sortie d'une réunion comme celle-là, quand on va partir, on dit, chacun dit, ou ceux qui le diront, le Seigneur m'a parlé. Peut-être au travers d'un frère, mais ici ils ne sont pas vus, les dons. Le chapitre 4 et le chapitre 5 sont pas contradictoires, mais dans le chapitre 5, c'est le chef qui est en évidence et qui fait tout. Il le fait au travers des dons, au travers de l'action de l'Esprit, mais ici, tout lui est attribué. Et nous finissons par cette note bénie, parce que ce passage contient l'espérance aussi. Au bout du chemin, au bout de cette formation, au bout de cette activité du chef de l'Église qui pendant 20 siècles et jusqu'à la fin aura tout fait, et fidèlement, eh bien, il y a ce moment où l'Église sera glorieuse. Et je pense, méditons sur cette expression glorieuse. Ça veut dire qu'elle ne sera plus dans la souffrance, elle ne sera plus dans le domaine de la mort, elle ne sera plus dans un monde dangereux qui la harcèle. L'Église est harcelée et par la persécution violente, et puis dans nos pays par la séduction. Elle ne sera plus sous l'emprise de la mort. Il y a une partie de l'Église, d'ailleurs, qui est dans la terre. Nos bien-aimés sont dans la tombe. Leurs esprits sont auprès du Seigneur. Mais ça ne recouvre pas toute la question. Elle n'est pas glorieuse. Et il est semé en déshonneur. Il ressuscite en gloire. Et puis, l'Église est, hélas, divisée. Mais glorieuse, ça veut dire, elle ne sera plus dans la souffrance, elle ne sera plus dans la division, elle sera une, l'Église. Elle va apparaître sur la nue, la première fois depuis la Pentecôte, son unité va être vue. Glorieuse. Elle n'aura plus ride. Qu'est-ce que c'est qu'une ride? C'est quand je suis moins heureux dans le Seigneur qu'il y a un an. Ça, c'est une ride. Il y a les images, mais il faut décrypter. Et les tâches, ah, ça, c'est plutôt les fautes, les péchés. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus d'affaiblissement. Il y aura plus. Elle sera glorieuse. Et pour la joie de cet homme, c'est comme le jour des noces. Ah, il est heureux se marier. Il a lutté, il a souffert pour l'avoir. Nous ne sommes pas forcément de ceux-là, parce que nous avons peut-être pas bien lutté pour avoir notre épouse. Mais si je reviens à Jacob, le jour des noces, au bout des 14 ans, ah, mais qu'il était heureux cet homme. Enfin, il l'avait. Eh bien, enfin le Seigneur l'aura. Celui qui aura tant souffert sur la croix et qui aura servi l'Église fidèlement. Enfin, il aura l'Église à ses côtés, resplendissante de beauté et pour sa gloire.